parce qu'il s'agit de traiter du gouvernement numérique. Le domaine de la santé comporte les ambiguïtés liées à la production et au partage des données numérisées. Personne ne peut vraiment s'opposer à un système de soins plus efficace et moins coûteux, mais on peut par exemple s'interroger sur ceux qui vont avoir accès à ces données, sur l'usage qu'ils en feront. On peut aussi s'interroger sur la mutation de ce commun numérique que constitueraient les données de santé. C'est à travers la question du partage et de la valorisation de la donnée de santé que nous allons maintenant aborder de façon concrète certaines questions qui viennent d'être évoquées. En suivant l'ordre des interventions, je voudrais remercier pour leur participation à ce séminaire Marie Bastian, docteur en droit public et qui a aussi été l'organisatrice de ce séminaire, Vincent Gautret, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal, chercheur au Centre de recherche en droit public, titulaire de la chaire Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique. Nicolas Wojnarowski, Chief Data Officer chez Enedis. Adrien Parot, médecin et informaticien, directeur d'Interop. Fabien Lebras, praticien hospitalier et médecin conseil à la direction des systèmes d'information de la PHP. Je donne maintenant la parole à Marie Bastian.
Change et de partage des données de santé dans une vie. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, les dirigeants souhaitent se positionner vraiment dans la course à la collecte et à l'exploitation des données, puisqu'on sait aujourd'hui qu'une saine gestion des données constitue un levier excessif. Les dirigeants témoignent autant d'une envie sincère concurrentielle que des limites, parfois aussi, de la voie choisie pour atteindre cet objectif. Et c'est probablement la pandémie qui a mis en évidence l'importance. Alors, quelques précisions sémantiques quand même, non? Comme l'a déjà effectivement en introduction, en informatique, la donnée, le plus généralement numérisée et stockée. De données dont un large panel existe. Qu'elle soit qu'à l'ère du numérique, les smartphones sont en train de devenir les principaux moyens de production de la donnée. Rappelons alors que le partage signifie le plus matériel ou immatériel, sans réciprocité ni obligation mutuelle directe ou indirecte. Il est important de rappeler que l'émergence du partage des données de santé est avant tout due à la vague importante d'innovations scientifiques et technologiques qui investit le secteur médical depuis la moitié des années, au moment même où cette pratique montait aussi en puissance au sein de la période. Les données occupent une part grandissante dans le champ de la communication scientifique. Notamment Sabina Leonelli, chercheure italienne. Les données tendent à être conceptualisées de plus en plus comme des produits de la recherche, détenant une valeur en elles-mêmes, et de moins en moins comme des composants du processus de recherche n'ayant pas de valeur inhérente. En prenant l'ouverture des données, l'open data, les politiques publiques véhiculent l'idée selon laquelle ces dernières constituent des entités à fort potentiel de réutilisation. Elles avancent deux catégories d'arguments pour justifier le partage des données. La première catégorie s'appuie sur une conception cumulative du savoir. Le partage des données contribuerait au renforcement de la transparence de la recherche, à la réutilisation des résultats par la communauté scientifique et l'enseignement, mais aussi par les entreprises et les citoyens, ainsi qu'au développement de nouvelles formes de recherche fondées sur l'usage de données massives. La seconde catégorie d'arguments est davantage le partage des données favoriserait l'innovation et la croissance économique, et contribuerait au retour sur investissement des sommes engagées par les instances publiques dans le financement de la recherche. Alors en France, l'accès aux données de santé peut prendre la forme d'un échange ou d'un partage de données, et les conditions de l'article L1110-4 du Code de la santé publique doivent donc être respectées. En complément de la notion d'équipe de soins, la loi française est ainsi venue clarifier les notions. D'abord, l'échange de documents comportant des données de santé consiste dans un flux de données visant à communiquer des données de santé à un ou plusieurs destinataires clairement identifiés, par exemple l'envoi d'un mail par messagerie sécurisée de santé. C'est en échange. Le partage, quant à lui, vise à mettre à la disposition de plusieurs professionnels fondés à les connaître des données de santé utiles à la coordination et à la continuité des soins dans l'intérêt de la personne prise en charge. Par exemple, ici, toutes les informations disponibles dans le dossier médical partagé qui se trouve aujourd'hui au sein de l'espace numérique de santé, mon espace santé. On comprend bien que le partage, tout comme l'échange, constitue donc une dérogation au principe du secret médical. Et le régime est différencié selon que les professionnels constituent ou non une équipe de soins, notion appréciée très largement depuis la loi de modernisation de notre système de santé de 2016. Alors après 17 ans de lancement infructueux du dossier médical partagé, l'ensemble des enjeux présentés se cristallise effectivement aujourd'hui à travers l'exemple topique de l'espace numérique de santé nouvellement initié. Alors pourquoi cet espace numérique de santé emporterait-il enfin la réussite tant espérée ? Probablement parce que depuis des décennies, la quête de l'informatique médicale est celle de l'interopérabilité, c'est-à-dire rendre possible entre deux systèmes quelconques l'échange de données en s'envoyant des messages standardisés. Rappelons que la volonté gouvernementale d'assurer une centralisation des données de santé afin de rationaliser les soins et de les rendre plus efficaces avait d'abord conduit à créer un dossier médical personnel instauré par la loi du 13 août 2004 et conditionné à l'époque à l'accord express du patient, l'opt-in. Sa mise en œuvre était prévue pour 2007, mais en 2008, un audit de l'inspection des finances qualifiait la gestion du projet de constamment précipitée, souvent improvisée et parfois inconséquente. La Cour des comptes avait également dénoncé à plusieurs reprises la gabegie des pouvoirs publics, pointant entre autres une défaillance de pilotage très anormale, eu égard au niveau élevé des investissements et des dépenses récurrentes d'utilisation. Bref. Un projet qui avait beaucoup patiné. Puis en 2016, le projet est relancé et ce dossier est alors rebaptisé dossier médical partagé afin d'en faire comprendre la finalité aux patients, avec l'impératif aussi d'en élargir l'accès au corps médical. Audacieux, l'objectif fixé était l'ouverture de 40 millions de DMP à l'horizon 2023. Or, à ce jour, l'assurance maladie indique encore sur son site internet la création d'environ 9 millions de dossiers et peu d'entre eux témoignent d'un début d'usage effectif. Dans un rapport du 22 juillet 2020 présenté par le député Cyril Isaac-Sibille sur le DMP et les données de santé, une difficulté nouvelle et quelque peu paradoxale a été soulignée. L'ouverture plutôt massive de DMP s'est immédiatement traduite par un empilement désordonné de données médicales. L'auteur de ce rapport plaidait donc pour un dossier structuré, ordonné, lisible et donc utile. Bon an, mal an. Et face à ce qui peut donc être considéré comme un second échec du DMP, le gouvernement a tout de même maintenu son ambition de faire prendre un virage numérique à notre système de santé et la loi du 7 décembre 2020 est venue réimpulser le projet du DMP à travers l'espace numérique de santé dit « mon espace santé », dont la particularité tient à l'abandon du consentement express pour faire place à une ouverture automatique, sauf opposition express. Opt-out. Ainsi, l'objectif de cet espace numérique de santé est bien de garantir un partage et un échange de données efficients avec et entre les professionnels de santé. Il va sans dire qu'un partage plus efficace des données de santé pourrait améliorer considérablement nos systèmes de santé. Mais il faut se garder de trop de précipitation. Si les ministres de la Santé successifs ont multiplié les initiatives en matière de numérique, une gouvernance claire et cohérente de la santé numérique au niveau national semble encore faire quelque peu défaut. Que l'on pense ici au coup d'arrêt du Health Data Hub, ce projet de plateforme regroupant l'ensemble des données de santé, dont la mise en place précipitée pendant la période pandémique a suscité beaucoup d'émoi, jusqu'à en retirer la demande d'autorisation indéfinie. Or, c'est un fait. Les recherches scientifiques font des progrès spectaculaires et la médecine avec. Si bien que l'on se prend aujourd'hui à rêver d'un futur où nous pourrions nous pré-diagnostiquer, voire nous auto-diagnostiquer à distance. Nous pourrions aussi prédire des maladies graves des années avant leur apparition et suivre des programmes personnalisés visant à éviter que ces mêmes maladies surgissent. C'est la médecine dite préventive et prédictive que certains attendent pour 2050. Or, pour atteindre un tel niveau de performance, il faut beaucoup de données à brasser, à croiser et à exploiter. Et ça tombe plutôt bien, puisque nous n'avons jamais laissé en 2021 autant de données de santé derrière nous. Aujourd'hui, notre parcours de soins, il est en majorité digitalisé, directement via les dossiers médicaux en ligne et indirectement via notre vie numérique au sens large. En effet, d'un côté, nous pouvons par exemple utiliser ce carnet de santé numérique, qu'est mon espace santé, qui comporte un dossier médical partagé. Bien que l'usager détienne le pouvoir de bloquer l'accès aux données, de base, en réalité, un véritable profil de santé, puisqu'il regroupe les antécédents médicaux, les traitements en cours. Mais qui peuvent le devenir si elles sont utilisées à mauvais escient. D'un autre côté, chacun laisse de nombreuses données de santé derrière lui chaque jour, que ce soit sur Doctolib ou dans les applications connectées à des bracelets ou des montres intelligentes. Là encore, il s'agit d'informations d'apparence anodine, le pouls, le nombre de pas que l'on effectue chaque jour, la qualité de notre sommeil, la prise d'un rendez-vous médical, mais qui, une fois croisées, permettent de nous connaître, en fait, à la perfection. Alors, à l'échelle du big data, quand ces données sensibles, en réalité, de quantified self, d'auto-mesure de soi, et de réservation en ligne sont cumulées avec celles de milliers ou millions d'autres personnes, voire mixées avec des données de santé dites classiques, eh bien, elles permettent de visualiser le cliché à l'instant T de l'état de santé d'une population entière. Alors, pour les chercheurs, il peut s'agir d'une vraie mine d'or qui leur permettra à terme de réaliser de meilleurs diagnostics, de mieux lutter contre des maladies rares, voire de les prédire. Tandis que pour d'autres acteurs, privés ou étatiques, des compagnies d'assurance ou GAFAM, en passant par des gouvernements hostiles, il peut s'agir d'informations intéressantes, mais pour d'autres. La première voie, celle des chercheurs, est néanmoins absolument louable et il convient aujourd'hui de l'entendre. Avoir accès à des données nombreuses et de qualité est absolument primordial pour la médecine. Quand on prend l'exemple de la Le fait de pouvoir avoir accès à l'état de santé de nombreuses personnes a permis de comprendre la vitesse à laquelle la pandémie se développait ou encore d'étudier l'action des vaccins. Alors, ces données sont donc potentiellement très utiles pour la médecine, mais encore faut-il qu'elles soient accessibles aux chercheurs et bien encadrées. Car la principale difficulté avec le big data, c'est qu'il s'agit de données massives qu'il faut la plupart du temps centraliser afin de pouvoir les exploiter au mieux. Or, toute la question est de savoir comment stocker ces données et comment les protéger. Sur ce point, je laisserai peut-être M. Parot nous éclairer sur la deuxième partie de notre matinée avec les questions de cybersécurité. Et puis, c'est aussi aujourd'hui la question de la souveraineté des données de santé qui apparaît dans le débat public. On constate une importante porosité entre intérêts publics et privés. Par exemple, dans le cas du Health Data Hub, sous prétexte de donner un coup de pouce à la recherche, des acteurs privés comme les startups sont mis à contribution et obtiennent un accès aux données soigneusement enregistrées dans la plateforme. Or, on le sait, une start-up atteint le succès quand elle devient rentable. Dès lors, on peut se demander si associer rentabilité et santé ne poserait pas quelques problèmes, notamment éthiques. Dominique Pont, qui était responsable ministériel du numérique en santé entre avril 2019 et mai 2022, s'est penché sur l'idée de la souveraineté des données. Et il expliquait dans un documentaire sur Arte que Google, Apple et les autres nous ont fascinés et fait croire que le numérique se résumait à des choses « big ». Sans alternative, mais il existe des voies différentes. Il nous est possible de construire notre propre écosystème. Et c'est notamment ce raisonnement qui a conduit le ministère de la Santé à mettre sur la table en février 2022 quelques 2 milliards d'euros afin de développer Mon Espace Santé, ce nouveau service public pour gérer ses données de santé et son parcours de soins. Un service dont l'ambition est finalement de généraliser le partage fluide et sécurisé de données de santé entre professionnels et usagers. On pourrait aussi imaginer une mise en œuvre effective d'un altruisme de données tel que formulé dans le nouveau règlement européen sur la gouvernance européenne des données, c'est-à-dire la mise à disposition volontaire de certaines données par des particuliers ou des entreprises pour le bien commun. Et puis enfin, le 3 mai dernier, la Commission européenne a annoncé plancher sur un espace européen des données de santé destiné à faciliter la circulation et l'accès aux données dans toute l'Union européenne, que ce soit pour les chercheurs, les décideurs publics, les entreprises ou les citoyens eux-mêmes. Une sorte de Health Data Hub européen, en somme, soumis à une réglementation européenne protectrice ayant vocation à lutter contre les pratiques non éthiques en matière d'utilisation des données de santé. La vice-présidente de la Commission européenne s'était alors exprimée au lancement de sa proposition d'espace européen de santé en disant les données sont le pouvoir, le sang dans les veines de nos systèmes de santé. Plus on a de données, meilleurs seront les diagnostics et la lutte contre des maladies comme le cancer ou Alzheimer. Nous disposons à 27 États d'un trésor, mais nous en faisons aujourd'hui un très pauvre usage commun. C'est le moment de se lancer, les logiques économiques et sanitaires convergent. Bon. Il n'est néanmoins pas encore totalement garanti de parvenir à une entente entre les différentes législations des États membres sur ces questions de partage et d'échange de données. Les mois qui viennent, nous le dirons. Pour conclure, si les définitions existent, un véritable besoin d'accompagnement des acteurs de terrain sur la mise en œuvre pratique des notions d'échange et de partage des données de santé se fait encore ressentir. Les questions juridiques restent en effet trop souvent complexes et nouvelles pour les acteurs du médico-social. À l'heure des nouvelles réglementations européennes que sont l'Artificial Intelligence Act et le Data Act, le contrôle de l'application des règles dépendra d'un système de gouvernance mis en place au niveau des États membres qui pourrait notamment, pourquoi pas, se formaliser par une approche de compliance.
Merci beaucoup, Marie, pour votre intervention unité de Sagrémic sur la problématique de cette notion d'espace qui s'intitule espace et numérique. On travaille beaucoup sur la recherche d'une définition de cet environnement numérique, une sphère numérique, datasphère, un espace numérique. Et là, on voit bien avec les données de santé qu'on est dans cet espace européen de données, donc espace, qui renvoie aussi à des questions de souveraineté, de sécurité. On va enchaîner. On laissera tout à l'heure un temps d'échange avec des questions. Ne vous inquiétez pas. Je vais juste vous demander de parler peut-être un peu plus fort, parce que Marie est vraiment proche du micro, parce qu'on vous entend, je suis au maximum. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint du professeur Vincent Vautré? Ceux qui nous suivent à distance, il n'y a pas de souci. Donc, je vais laisser maintenant la parole.
Oui, on ne voit pas le PowerPoint. Ah. À part si c'est projeté au mur. Si c'est ça. Bon. Oui.
D'accord. Parfait. Vous me dites, si l'orientation de la caméra n'est pas bonne, n'hésitez pas à m'écrire au fil de la conversation. Donc, je vais laisser la parole maintenant au professeur Vincent Vautré. Nous sommes ravis d'avoir donc une représentation ici de nos chercheurs du Canada, Centre de recherche en droit public, à ne pas confondre avec le Centre de recherche en droit public de l'Université Paris-Vancouver. On a deux représentants ici du CRDP. Et nous sommes vraiment très heureux de voir le professeur donc, Vincent Vautré qui va intervenir ensuite dans deux jours à Rennes, un grand colloque sur la souveraineté numérique et qui nous fait donc l'immense plaisir d'avancer sa venue à Paris pour exprès assister donc et échanger avec nous sur ces questions de données de santé, de circulation de données, de partage de données. Je laisse immédiatement la parole en renouvelant mes remerciements au nom de la chaire.
Merci beaucoup. En 15 minutes, là, je vais mettre mon petit... respecter mon temps. Merci beaucoup pour cette invitation avec nos chairs qui se ressemblent à des égards, en fait, parce que comme celle dont je dispose depuis 2015 et puis celle que j'avais eue avant sur l'excellence, on est très très intéressés par les approches plurielles avec le regard pluridisciplinaire qui est en fait une composante du CRDP aussi que j'ai défendu 8 ans et puis à la direction depuis le 1er juin. Alors c'est un vrai plaisir et en 15 minutes, je voulais simplement peut-être lancer des questions plus que des réponses sur des échanges qui, j'espère, que nous aurons l'occasion d'avoir juste après. Alors, moi, au départ, ce que j'ai regardé, je savais qu'on devait parler, c'était le deuxième panel de mon espace santé sur lequel je connais absolument rien. Moins de moi l'idée d'avoir quelconque jugement sur cet élément-là, mais connaissant rien, mais je suis allé voir la page Wikipédia du site en question. C'est super, les pages Wikipédia. Moi, j'utilise beaucoup les pages Wikipédia, mais c'est important d'aller voir, je ne sais pas si vous prenez l'habitude, d'aller voir l'historique. Et il y avait Dominique Cardon, qui est un sociologue des technologies français, qui avait notamment été capable de mesurer, en fait, que dès lors qu'on a un assez grand nombre d'éditeurs, la qualité des contenus Wikipédia bien est équivalent à celui d'une vraie encyclopédie. Alors là, dans votre cas, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs. Il y a une vingtaine d'éditions, il y en a principalement une dizaine. Alors, je ne sais pas si je pouvais me fier sur cette page Wikipédia relativement à ce site-là, mais comme illustration de ce que peut être la cybersanté. Mais ce que je voyais un petit peu en lisant un petit peu, encore une fois, cette plateforme sur laquelle je ne connais rien, c'est que, d'une part, on a une utilisation gratuite, c'est vraiment des choses dans le domaine de la santé, je pense, mais aussi avec une grosse place, et je vais y revenir, sur l'autonomie d'individus. Je voyais aussi des nouvelles opportunités sur lesquelles vous êtes déjà intervenu, sur lesquelles je vais revenir aussi, sur les nouveaux services que les technologies offrent. Et enfin, ça, je voudrais pas en parler parce que j'imagine que vous allez en parler, mais moi, c'est mon domaine de prédilection. Je travaille beaucoup sur les questions de preuve, sur les questions de sécurité. Il y a le fameux CID, confidentialité, intégrité, disponibilité, qui sont bouleversés par l'avènement du numérique. J'aurais peut-être l'occasion de dire quelques mots là-dessus aussi. Une chose est sûre, et là encore, c'est des éléments sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, j'ai fait un livre là-dessus, le passage à telle plateforme n'est pas neutre et va avoir des avantages. J'ai beaucoup les propos de Michel Serre, qui était un optimiste devant l'éternel, qui lui mesurait beaucoup d'avantages, peut-être moins d'inconvénients, mais aussi c'était il y a quelques années. Mais peut-être qu'il y a un autre auteur français lui aussi qui l'utilise à l'occasion, décédé lui aussi il y a très peu de temps, Bernard Stiebler, qui utilisait l'image du pharmacon dans auprès des Grecs, cette notion de pharmacon, à mon avis, c'est très interrelié au numérique, qui à la fois peut être un médicament avec des nouvelles opportunités, mais aussi un poison avec des risques assez grands qui peuvent être associés à ce changement. Alors justement, poison et médicaments, deux parties, comme font souvent des juristes et pas uniquement français, deux parties pour dire qu'évidemment, en partie pas très juridique, je crois. Moi qui suis que prof de droit, 15, et que ça, même si je m'accompagne beaucoup avec d'autres disciplines, c'est que juste faire un petit panorama des différentes options médicamenteuses que le numérique peut offrir, et peut-être ensuite dire qu'évidemment, ces nouvelles options vont nous obliger, c'est un petit peu ce que vous disiez, Marie, à encadrer et à offrir une posologie qui reste à déterminer. Allons-y avec le médicament, et je crois que la cybersanté, au départ, est une notion de santé. Ça semble être le cas en France, c'est le cas chez nous, c'est un domaine à la mode. Ce qui, peut-être comme scientifique, m'amène parfois à une certaine suspicion. Il faut faire attention aux phénomènes qui sont source à trop grande, à la trop grande passion, comme le sont les phénomènes de mode. Et je ne veux pas m'apesantir sur, évidemment, il avait évoqué les potentialités énormes que le numérique présente, et notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous, en ce moment, c'est le sésame pour obtenir des fonds de recherche. L'IA, notamment l'Université de Montréal, je pense qu'on la vice-rectrice est allée chercher plus de 500 millions de dollars pour faire des recherches, pas en sciences humaines, un petit peu, surtout dans les sciences dures. C'est un domaine éminemment à la mode, c'est un domaine éminemment prospectif. Il y a très peu d'entreprises privées qui investissent là-dedans, mais c'est un phénomène dans lequel le Canada veut se positionner, parce qu'on identifie très clairement, notamment dans le domaine de la santé, les potentialités considérables qu'offre le domaine. Alors, bon, avec une vision volontairement un peu retors, je pense, c'est important aussi d'identifier que ces domaines sont remplis d'émotions. Et ça fait penser à un chercheur italien, anthropologue du numérique, qui parle, qui a beaucoup écrit sur la notion de technomagie. Il prenait l'exemple de le nouvel iPad qui rentre sur le marché, il y a une totale déraison par la volonté qu'on a d'acheter la version la plus récente du dernier iPad ou iPhone, qui sont associés à un phénomène très, très émotif. Phénomène aussi oppressif aussi, et parce que j'ai des préférences un peu masculines, mais je pense au travaux très intéressants de Morozov sur le solutionnisme technologique, qui est une piste de solution qui date d'il y a 4-5 ans. Il y a Shona Morozov, je ne sais pas si vous connaissez aussi, une chercheure états-unienne qui a écrit énormément des propos assez assez créatifs sur ce que le numérique est susceptible. Plus ancien, Jacques Ellul, qui était juriste de formation, historien du droit, mais qui a migré avec une série d'ouvrages sur la notion du technique, qui voyait avec une certaine crainte parfois comment le numérique pouvait être parfois instrumentalisé. Alors, encore une fois, je ne veux pas mettre de côté les potentialités énormes que le numérique propose, mais il faut avoir conscience, de risques parfois qui peuvent être associés à certaines solutions, notamment les plus prospectives, notamment avec tout ce qui est justice prédictive, qui, sur des dépôts numériques, je comprends très bien, c'est une solution assez ancienne et assez maîtrisée. Sur l'IA, c'est du prospectif et les potentialités sont encore difficiles à mesurer. Alors, ce droit, lui aussi, en tout cas au Québec et au Canada, dispose de cette émotion et dans certaines lois, c'est vrai aussi dans le domaine de la justice, en matière de procédure civile, où on voit des lois qui de plus en plus disent il faut favoriser l'introduction numérique. Donc des lois à caractère performatif veulent que l'on intègre davantage, alors parfois c'est simplement descriptif, prescriptif, mais il n'y a pas forcément des fonds qui vont avec ça, mais on dit il faut intégrer de plus en plus le numérique. Alors, sur les possibles, là encore, je fais juste un survol très, très, très personnel, ça fait déjà 8 minutes, mais on a vécu au Québec, surtout le Québec, c'est 3 fois la France, c'est une immense distance, et on a vu des potentialités énormes en termes de téléconsultation. Il y avait un côté très réfractaire des médecins à utiliser de tels processus, puis après la Covid, on a été obligé de le faire. De la même manière, les notaires refusaient, à la différence de la France, de faire des actes notariés. Maintenant, on ne fait plus que ça. La Covid nous a cassé, je dirais, cette barrière culturelle, psychologique, à sauter dans le grand bain du numérique. Et en matière de téléconsultation, maintenant que le Covid est pas maîtrisé, mais encore, je dirais, plus intégré dans nos consciences, les téléconsultations continuent à être perpétuées par, notamment encore une fois, auprès de populations qui sont assez lointaines et qui ne disposent pas, dans certains cas, de spécialistes pour les aider. Je n'ai pas de pourcentage, mais on parle de dizaines de pourcents des consultations dans certains domaines qui s'opèrent toujours actuellement. Dossier santé, c'est encore, moi j'ai moins travaillé sur un projet de dossier santé que l'on a au Québec, mais j'ai travaillé pas mal sur un dossier numérique dans le domaine de la justice où, là encore, on a des bandes de données qui commencent à émerger de plus en plus avec des potentialités qui paraissent assez conséquentes. Troisième, c'était un peu votre point de vue, justement, avec l'IA où on veut générer de la donnée, valoriser de la donnée, un aspect très, très prospectif. Alors, j'ai pas le temps de développer, mais je pense que dans ces trois hypothèses de ce que les services peuvent être faits grâce au numérique, c'est que il importe, et c'est une approche très, très économique, en fait, de faire une approche fonctionnelle des gains et des pertes. S'assurer que les gains soient supérieurs aux pertes, que ce soit en termes documentaires, avec plus d'accès et plus de services que sont offerts par le numérique. Il y a, je crois, aussi des pertes potentielles de services que le numérique pose, et aussi pour un problème de santé. Je ne connais pas la situation en France, mais au Québec, on a à peu près 40% d'analphabètes fonctionnels, des personnes qui ne sont pas capables de lire sur un écran minimalement. Et forcément, les services numériques sont très textuels, sont très basés sur le caractère textuel, et il y a un vrai risque de perte d'humanité, de perte de contact avec certaines populations, notamment les plus vulnérables. En termes de sécurité, en termes de gestion de la nouveauté aussi, il y a assurément des déficiences qui sont associées à ces nouveaux services. J'ai pas le temps de développer, mais par rapport aux nouvelles fonctions médicales, moi j'ai un vrai questionnement sur ce que vous avez écrit, l'empowerment, on parle d'autonomisation, de capacité de capacitation. Je pense, en certains cas, ça peut être intéressant, mais c'est l'empowerment qui est souvent utilisé, en fait, souvent pour diminuer les services de l'État. C'est un moyen de dire, prends tout en charge, comme moi, ça va me permettre, moi, État, de me décharger dans le type de service que je propose. Donc, en termes de services publics, je pense, dans certains cas, c'est possible, c'est intéressant, mais notamment encore vis-à-vis de populations plus vulnérables, il y a des risques parfois associés, encore une fois, au regard de ce buzzword, de ce mot à la mode que constituent, dans certains cas, les questions d'impôts. Les médecins que j'ai eu l'occasion de travailler, travail groupe, en tout cas, l'Université de Montréal, sur la question d'individualisation des soins dans les nouveaux rapports patients-médecins qui sont offerts via numérique. Donc, encore une fois, au regard de nouveaux rapports coûts-bénéfices que le numérique présente. Je n'aurai pas le temps de parler de toutes les actions valorisantes, c'est-à-dire de justement ce que vous avez évoqué, Marie, donc la possibilité de faire parler les données, mais on est au Québec en train d'avoir un nouveau projet de loi, justement, qui s'appelle C19, justement pour avoir, on a de bonnes données de santé, et à cause du droit, souvent ces données ne sont pas utilisables, parce qu'on a une procédure qui, dans certains cas, peut prendre jusqu'à 6 ans de validation, ce qui est totalement ridicule. On fonctionne par des projets de recherche qui, généralement, sont de 6 à 8 ans. Et ça nous prend parfois 6 ans d'avoir un avis positif de la Commission d'accès à l'information, qui est une sorte de CNIL, qui est de la CNIL, pour avoir une validation et utilisation des données. Donc, on a une surprocédurisation complètement qui annihile toutes les potentialités. Donc, ça, c'est ma première partie. Alors, il me reste 2 minutes. Sur ma seconde, qui est plus liée en plus à ma connaissance, donc je vais juste présenter ça vite, sur la posologie à déterminer et donc sur les rapports au droit. 2 points que je comptais évoquer devant vous. Ben, le premier, c'est le droit comme substance, c'est-à-dire comment, quels domaines de droit sont modifiés par ces nouveaux enjeux liés au numérique. Et deuxièmement, question. On a parlé à la pause, peut-être qui pourrait vous intéresser, Eric, c'est sur comment la nouvelle interaction normative qui existe entre les lois qui réfèrent à des normes communautaires, qui elles-mêmes réfèrent à des procédures internes que les praticiens doivent immanquablement, regardant des lois, que ce soit RGPD ou autres, développer ce que j'appelle des normes individuelles pour s'assurer d'être en rapport avec les 2 étages supérieurs. Sur les enjeux substantiels, évidemment les questions de vie privée, obligation documentaire, je n'en parlerai pas, question de droits fondamentaux, je vais juste les citer. Sur la vie privée, je voudrais simplement situer, on l'évoquait un petit peu au début, la vie privée au Québec est, je pense, culturellement un peu distincte de la position européenne. Il y a des différences que vous appelez, j'ai écrit un article que je pourrais vous transmettre si ça intéresse, mais différences culturelles avec l'approche européenne qui s'explique pour des raisons notamment historiques. Il faut savoir aussi que le numérique change la donne à mesure où généralement la protection de la vie privée était basée sur une technique où d'une part les données étaient transmises à moins de personnes, alors que maintenant il y a plus en plus d'acteurs qui rentrent en compte. Et surtout, c'est que les mesures de protection dans les lois plus anciennes qui datent 10-15 ans après l'Europe, début des années 90, était basée sur une protection basée sur l'immobilisation des données. Or, avec les outils que l'on veut mettre en place, on veut au contraire faire circuler les données. Donc, ça présente des beaux défis sur la mise en place des mesures de sécurité. Je ne parlerai pas des mesures documentaires, j'évoquerai simplement en matière de droits fondamentaux. Et ça aussi, en lisant la page Wikipédia sur mon espace santé, Je voyais l'idée qu'il y avait un consentement, donc tout le monde pouvait se désinscrire du processus, mais qu'il y avait une sorte de consentement qui nécessitait une action, se déconnecter. Et on a une disposition, nous, en droit québécois, qui contrôle ce petit élément-là, où on a mis en place un principe de liberté technologique et un individu peut, dans certains cas, sauf loi ou convention contraire, choisir d'utiliser notamment les vieilles technologies, le papier, le rapport physique, plutôt que que le numérique. Il y a un vrai enjeu, et en matière d'IA, évidemment, c'est un droit fondamental, la question de discrimination est un élément important. Mon dernier point, et je vais simplement finir avec une illustration, et je suis déjà à 16 minutes, je m'en excuse, mais c'était simplement vous dire, en matière de vie privée, par exemple, on parle beaucoup de désanonymiser. Et on a une nouvelle loi au Québec depuis septembre dernier qui dit, si vous voulez désanonymiser des données, c'est notamment le cas souvent dans le domaine de la santé, vous devez vous, en fait, vous conformer aux règles de l'art. Règles de l'art réfèrent à des normes techniques qui, de plus en plus, notamment les ISO, mais les autres, et qui, ces règles-là, quand on les lit, ces normes techniques, c'est important, s'il y a des juristes dans la salle, vous intéressez au numérique, vous n'avez pas le choix de maîtriser les normes techniques. Ces normes techniques vont référer à des documentations internes que les gens qui désanonymisent doivent mettre en place. Donc, il y a une sorte de nouveau millefeuille normatif qui est quand même assez nouveau dans la manière de concevoir le droit. Et un projet de recherche sur lequel je travaille, là, qui vient d'être financé, vise notamment à avoir une approche participative pour que ces normes techniques puissent être élaborées de concert avec toutes les parties prenantes, plus pour favoriser encore une fois une approche plus plus participative. Et j'ai pas le temps de développer ces points parce que j'ai déjà dépassé mon temps. Ma conclusion, je l'ai déjà un petit peu donnée. Je suis surtout pas anti-technologique. Je pense que je suis assez technophile. Mais j'ai une certaine tendresse, notamment, comme les dépôts de données, qui sont des technologies, en somme toute, assez anciennes, peut-être un peu moins sur, je dirais, parfois, des visions très futuristes que base, notamment en matière d'intelligence artificielle. Assurément, il y a des potentialités, mais en tout cas, nous, au Québec, il y a une vraie mode. Une mode, d'ailleurs, moi, je suis assez vieux, j'ai fait ma thèse sur le contrat numérique à la fin des années 80. Mon âge et j'ai failli, en fait, je me suis fait offrir des jobs. J'avais un placard à l'Université de Montréal et je mangeais des nouilles comme mes clients. Et je m'étais offrir une job par des capital risques. Et il y avait une folie, on a eu 4-5 ans de folie numérique. Après, l'entreprise qui a forcément disparu depuis parce qu'il n'y a aucun modèle d'affaires viable là-dessus. Mais au Québec, en tout cas, et en Amérique du Nord, on a vécu, notamment via les BIA, des situations de véritable potentiel, mais aussi des situations où il y a un peu de technomagie, en fait, pour reprendre une question de Suzanne. Une minute, excusez-moi de m'avoir donné le temps. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le professeur Vautrey, pour votre exposé très riche et très à la mode. En réalité, parce que j'entendais ce matin sur mon trajet pour venir jusqu'ici toute la problématique autour de la conscience de l'IA utilisée par Google. Un ingénieur de Google, vous n'avez pas entendu d'actualité ce matin, un ingénieur de Google a été mis en retrait parce qu'il a dit que l'intelligence artificielle utilisée par Google, qui est effectivement assez exceptionnelle pour atteindre en fait une finesse, une belle granularité en matière de profilage, avait une conscience. Donc, évidemment, Google a immédiatement demandé à son avocat d'intervenir sur une chaîne de radio pour démentir ce propos-là, pas qu'il y ait justement une rumeur qui se propage par rapport à ça, et de revenir sur une IA maîtrisée par l'homme, technique, etc. Se pose évidemment la question de la neutralité, vous l'avez dit, et des viennes, on en reviendra tout à l'heure avec la question de mon espace santé. Je ne vais pas aborder tout ce que vous avez dit, il y a plein de questions que j'aimerais vous poser, mais j'attendrai, comme tout le monde, le temps de l'échange. Je donne immédiatement la parole à notre partenaire Enedis et à Nicolas Wojnarowski, qui est donc Chief Data Officer chez Enedis et qui va nous exposer un petit peu la question de la politique. Qui est l'entreprise donc de service public Enedis.
Merci. Donc en effet, je ne vais pas vous parler de santé, mais plutôt d'énergie. Donc, en tant que chief data officer des midis, je vais commencer par essayer de donner notre définition de la gouvernance des données, en tout cas celle qu'on applique ou tente d'appliquer dans notre entreprise sous plusieurs angles. Ensuite, je passerai un petit peu de temps pour dire de manière très opérationnelle cette gouvernance de données, comment elle s'applique aujourd'hui dans l'entreprise, notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer le partage des données avec les parties prenantes externes de l'entreprise. Et puis je terminerai par essayer de parler des réflexions sur cette gestion des données qui me semblent communes avec les données de la santé, parce que je pense que côté énergie, avec peut-être un petit peu de retard sur ce que j'entends depuis ce matin, mais on a des problématiques qui sont finalement assez proches ou qui vont se rapprocher des questions de partage de données côté de la santé. Alors, la gouvernance de données, d'abord peut-être une vision très, ça a été évoqué par le professeur, peut-être très procédure d'entreprise, mais la clé d'entrée, elle est un peu procédurière hein, sur la gouvernance des données dans l'entreprise et chez Emedis. C'est tout simplement fixer les règles d'utilisation des données que nous gérons. J'y reviendrai. Énormément de données sont gérées par Emedis. Donc on se doit se dire quelles sont les règles d'utilisation pour des cas d'usage, qu'ils soient internes ou externes. Concrètement, ça veut dire notamment cartographier les données que nous gérons. Ça peut paraître évident, mais avoir une idée en termes de catalogue de données, de toutes ces données-là, elles sont rattachées à quel domaine, les modèles d'objets métiers, quels sont les objets métiers ou concepts métiers manipulés par nos équipes, et puis à chaque fois, ce qu'on appelle les attributs qui vont décrire ces objets métiers. Par exemple, un objet métier qui est un client, son âge, son contrat, là où il habite, etc. Ça sera ce qu'on appelle la donnée élémentaire et qui sont les attributs. Et puis à chaque fois, et en termes de gouvernance de données, c'est important de définir la sensibilité de ces données. Pour être simple, si jamais cette donnée fuite ou est mal utilisée, quel est le risque pour l'entreprise? Risque évalué sous tout un tas de critères, risque financier, risque médiatique, risque opérationnel, etc., etc. La deuxième étape importante dans cette procédure, c'est de fixer les responsabilités sur chacun de ces domaines de données, sur chaque donnée. Quel est ce qu'on appelle, nous, alors j'aime pas trop le terme, mais je vais essayer de le changer, mais une fois que les choses sont installées, c'est compliqué. Quel est le propriétaire de la donnée? J'aime pas trop ce terme parce qu'en réalité, on est propriétaire de très peu de données. J'ai déjà parlé des données gérées par Emedis, parce qu'on gère contre d'autres, j'y reviendrai. Mais quel est le propriétaire? Ça veut dire quelle est l'entité métier dans l'entreprise qui est celle qui est garante du fait que l'utilisation de la donnée en question est faite en cohérence avec la politique de l'entreprise. Une deuxième définition, peut-être plus, je n'ose pas dire sexy, mais stratégique, en tout cas plus politique, c'est de se dire, c'est quoi le bon équilibre entre la valorisation et la protection de la donnée? On en parle un petit peu depuis ce matin. Hein. Et ça, c'est évidemment un sujet important. Si on veut être un acteur de confiance des données énergétiques, comme on veut l'être, on doit protéger les données. Cette protection, elle doit se faire par rapport à la loi sur les données unitaires, les données personnelles. On ne peut pas faire ce qu'on veut, bien entendu. Il y a des questions de sécurité. Voilà. Et puis, il y a aussi des questions stratégiques. Les données, elles donnent une représentation du savoir-faire industriel de notre entreprise. À ce titre, elles doivent aussi être protégées. De l'autre côté, il y a la valorisation, que ce soit pour améliorer la performance industrielle de l'entreprise, améliorer le process, ou pour dégager de la valeur en offrant des services à nos parties prenantes externes. Hein. Enedis, je n'ai pas dit gestionnaire du réseau public de distribution, donc nous, on est en monopole. Ce n'est pas vendre des services pour développer de la marge, mais dans notre job, c'est créer des services, créer les conditions pour que l'externe puisse développer de la valeur. Donc, on a un rôle dans le développement de la valeur collective à partir des données énergétiques. Donc, il y a cette espèce d'équilibre entre protection de la donnée et valorisation. Ce que moi, j'aime bien dire là-dessus, c'est qu'en réalité, ces deux notions ne sont pas opposées. Et après quelques années dans ce secteur, j'ai constaté qu'en réalité, il faut plutôt voir les choses sous forme un peu pyramidale. La base, c'est la protection. Parce que si on ne protège pas les données de façon pertinente, on ne pourra pas valoriser. Il y a toujours un moment où les gens diront, vous êtes en train de développer des services ou des cas d'usage, mais vous gérez ça, vous protégez comme des sagouins. En fait, ça va contre les données personnelles ou autres. Donc, en fait, ça ne doit pas s'opposer. Si on veut bien valoriser les données, je pense qu'il faut qu'on soit bon en termes de protection. Puis, un dernier angle dans cette définition qui pourrait être culturelle, on dit depuis ce matin, il y a énormément de... Les potentialités numériques se sont énormément développées. Il y a plein de choses à faire avec les données. Il y a 36 000 salariés chez Enedis. Il y a plein de métiers, il y a des opérationnels, il y a des fonctionnels. Expliquer à tout le monde quelles sont ces données gérées, quels sont ces risques si on les protège mal, quels sont les potentiels de valorisation, c'est très important. C'est une transformation sur le long terme. Il y a un point important, c'est de prendre la question des données le plus en amont possible. Il y a des gens qui parlent d'entreprise data-centrique, etc. En tout cas, ce qui est important, c'est dès qu'on développe de nouvelles choses, prendre la question de la donnée le plus en amont possible pour voir comment s'améliorer en tant qu'entreprise grâce à ça. Et puis aussi, peut-être à l'inverse, être sensibilisé au fait que la qualité de la donnée est tellement importante que dès le début, il faut mettre en place ce qu'il faut pour bien qualifier les données, bien les prélever, pour pouvoir ensuite utiliser des données de qualité. Alors, en termes concrets et opérationnels pour Enedis, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais pour le monde de l'énergie, j'allais dire, quand on pense à Enedis, on pense à Linky, au compteur Linky, donc aux données de consommation. Je ne sais pas si vous connaissez bien Enedis, peut-être que vous ne pensez même pas à ça, vous ne pensez peut-être même pas du tout à Enedis, d'ailleurs. Mais c'est pas que ça. Les données gérées, c'est important, mais il n'y a pas que les données de consommation. Il y a l'ensemble des données qui décrivent le réseau, les données techniques, l'ensemble des données qui décrivent nos opérations. Donc la cartographie des données dont je parlais tout à l'heure est quand même très très large. Et donc ce sujet-là, nous on a fait en deux ans un travail de cartographie. On a cartographié 1300 objets métiers et 8000 attributs. Donc, pour vous dire, c'est assez large. Puis derrière, il y a évidemment toutes les données dans les systèmes d'information. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse industrie et une grosse, grosse gestion des données. Un point très opérationnel dans la gestion de ces données, pour citer des applications pratiques, à chaque fois qu'il y a une application SI qui va utiliser des données, on nous demande de faire ce qu'on appelle une analyse de sensibilité de la donnée, de l'application, pardon. Donc, en screenant l'ensemble des données utilisées, pour pouvoir dire, donc finalement, voilà la sensibilité de cette application, et donc voilà les règles de protection, le niveau de protection dans les systèmes d'information qu'il faut appliquer pour gérer cette application. C'est très important parce que derrière, c'est évident, hein, plus les protections sont importantes, plus les coûts sont aussi importants. Puis le deuxième sujet, ces applications, elles peuvent être internes ou externes. Je vais m'étendre un peu plus sur les applications externes. Par exemple, quand on développe un service de mise à disposition de données pour une collectivité locale, il va y avoir l'analyse de sensibilité dont j'ai parlé, mais aussi en amont, voire en parallèle, il y a la question de la politique d'ouverture des données. C'est-à-dire, les données qui vont être mises à disposition de l'externe, est-ce que je le fais ou pas et dans quelles conditions? Est-ce que ces données, elles sont mises à disposition en open data? Est-ce qu'elles sont mises à disposition en closed data? Et du coup, dans quelles conditions? Alors évidemment, cette politique d'ouverture des données, elle est corrélée à la sensibilité de la donnée en question. Mais ça n'est pas exactement la même chose. C'est pas parce qu'une donnée est ultra sensible que je ne la mettrai jamais à disposition. On a par exemple des données qui décrivent nos réseaux de manière très fine, les matériaux, qui sont des données un peu chaudes sur le plan de la sécurité, si elles étaient mises à disposition de tout un chacun. On sait très bien que nos concédants, je n'ai pas dit, je suis obligé de parler un peu des métis, on gère le réseau en concession, on gère des réseaux qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent aux collectivités. Les concédants sont en droit d'avoir les informations sur ces réseaux, donc on va leur mettre à disposition, mais en close data. Et donc ça, c'est un point très important dans notre gouvernance des données. C'est un travail auquel je tiens beaucoup. Et je suis assez fier d'Enedis sur ce point-là parce que Ensuite, la cartographie des données métiers dont je parlais tout à l'heure, on a défini ces postures d'ouverture sur chacune des données. En fonction des différents types d'acteurs, eh bien, est-ce que je mets ou pas la donnée à disposition et dans quelles conditions? Donc, on parlait tout à l'heure de Linky, les données énergétiques, typiquement, à des fins de transition énergétique, on va les mettre très largement à disposition du public. Par contre, les contraintes, elles sont réglementaires. On ne peut pas mettre à disposition des données à caractère personnel, donc on va être sur des modélisations, des agrégats ou des questions de consentement, etc. Si je prends un autre exemple, nos données d'exploitation, les données qui expliquent comment on exploite nos réseaux, les coûts que l'on met pour faire telle ou telle intervention, les équipes, la manière dont on exploite, le schéma d'exploitation, ça, on considère que c'est notre savoir-faire industriel. Donc là, dans des cas très, très précis, on échangera quelques informations avec nos concédants, mais à peine. On dira aux concédants, on a des comptes à vous rendre sur nos résultats d'exploitation, pas sur la manière dont on travaille, parce que ça, c'est notre savoir-faire. Le dernier point dont je voulais parler, c'est j'ai essayé, j'ai réfléchi hier, comment faire un lien avec la santé, sur le partage, la question du partage d'informations et de l'équilibre entre protection de la donnée individuelle, d'une part, et création de valeurs collectives, d'autre part. Je pense qu'on a des réflexions qui ressemblent à ce qui se passe dans le monde de la santé sur où je mets le curseur par rapport à cette question. On les a toujours eues, puisqu'avec la transition énergétique, on commence à entendre parler depuis quelques années. Et donc, il y a toujours eu cette question de, on pourrait faire des tas de trucs sur la transition énergétique, savoir où on peut proposer des services, à quel endroit faut produire, où est-ce qu'on met les éoliennes, etc. Par contre, il faut des données. Et nous, on dit, bah non, mais la loi, c'est pas possible, c'est des données personnelles. Donc, il y avait des voies pour dire, bah ouais, mais si on mettait à disposition ces données de façon plus large, ça permettrait de créer de la valeur collective. Je dirais que, en tout cas en France, traditionnellement, la frontière, elle se met du côté de la protection individuelle. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Depuis quelques années, je prends deux événements, le Covid dont on a beaucoup parlé, et puis l'un qu'on vit en ce moment et qu'on risque de vivre pour quelques années, qui est la crise énergétique, et là qui nous impacte directement. Dit, ah, voilà, c'est-à-dire si à un moment donné il y a vraiment des difficultés d'approvisionnement énergétique, tout ce qui va permettre de lisser les effets de la crise sera intéressant, et donc je pense qu'on va se poser cette question. C'est-à-dire jusqu'où on protège les données individuelles, sachant que si on les exploite bien, on peut certainement avoir une action collective très intéressante par rapport à ces difficultés énergétiques. Pour moi, c'était un peu la question d'ouverture par rapport à ce lien entre notre santé et l'énergie. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Nicolas, pour votre intervention très riche également. Et puis, le lien, en fait, était évident pour nous entre données énergétiques et données de santé. Même pour les personnels, mais qui ont aidé vers espace commun, créer en fait un espace commun de données énergétiques avec cette idée d'intérêt général. Pour chaque donnée, nous est un peu dû à la mesure où on finance. Accès. Là, c'est pas du tout évident de placer le curseur. L'élément qui bloque d'un point de vue juridique. À s'entraîner, quelqu'un soit pêche l'innovation, en tout cas française, et l'épanouissement des startups françaises. On a un vrai problème, vraiment, de souveraineté. Sachant que Nicolas doit nous quitter dans une vingtaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, dans la salle tout d'abord, peut-être. Ensuite, on demandera au panel d'intervenants.
Une question pour Nicolas. J'avais une question un peu sur comment dans votre gouvernance, vous faites redescendre jusqu'aux acteurs de terrain. Alors, vous êtes une entreprise qui est très hiérarchisée, donc ça aide. Mais un des problèmes qu'on a notamment en santé, c'est que les acteurs de terrain comprennent cette gouvernance, se l'approprient, c'est énorme, mais on voit l'intérêt pour qu'ils en soient un acteur volontaire et pas qu'ils ne la vivent pas comme une contrainte supplémentaire. Ce qui est un grand problème en santé, c'est l'impression d'empilement des normes qui ont été bien expliquées tout à l'heure. C'était, il y a nos normes métiers, il y a les normes réglementaires, il y a les normes maintenant qui arrivent pour la gestion des données. Et tout ça, l'acteur de métier, ben, il a du mal à les intégrer, à les prioriser. C'est sûr que ces normes métiers, moi, je peux toujours passer à le bon traitement comme une priorité à remplir correctement la donnée. Comment vous impliquez jusqu'au bout de votre réseau Enedis? Et c'est le bout qui m'intéresse, parce que c'est souvent là que le bas blesse. Donc, vous intégrez les gens, vous allez diffuser ça.
Ouais, c'est une très bonne question, et en tout cas, c'est vraiment une de nos préoccupations. C'est pour ça que je parlais de cet aspect culturel, en fait. J'aurais dû dire déploiement plutôt transformation jusqu'au bout. Alors, je pense qu'on ne fait pas de miracle. Nous, on a 25 directions régionales, et en fait, on a essayé de mettre en place ce qu'on a appelé des administrateurs de données en région, qui sont des personnes relais, qui nous aident à diffuser tout ce que j'ai raconté, qui est quand même assez nouveau, ça a commencé il y a 4-5 ans, fin 2015-2016, et puis on intensifie. Et on passe par eux pour ensuite, qu'ils déploient les outils et les règles dont j'ai parlé dans leurs équipes. Après, on le fait aussi en passant par nos différents filières métiers. Comme vous avez dit, on est très hiérarchisé, structuré en tout cas. Donc, on a une filière client, une filière technique. On essaie aussi de les habituer, enfin de les former le plus possible sur ces aspects-là pour que eux aussi déclinent sur les acteurs métiers terrain ce qui est intéressant pour eux sur la gouvernance des données. Et il y a l'aspect outillage qui est important. Par exemple, le catalogue de données dont je parlais, on en a fait un outil numérique qu'on espère le plus sympathique et facile possible d'accès pour que les gens puissent avoir la vision des données, ses grandes caractéristiques, le service lié, etc. J'ai pas de réponse miracle, c'est du déploiement, et en tout cas, c'est en continu, c'est pas du one shot, il faut y revenir.
Si je peux
vous
parce que je suis en direction régionale, je travaille, moi, avec les opérateurs au quotidien. Il y a un levier qui est intéressant, donc au-delà du... Je ne sais pas si... Mais au-delà de ce que Nicolas vient de citer, il y a aussi une démarche innovation. On pense que c'est un levier pour, en effet, faire que les gens s'intéressent à cette donnée, voient comment ils peuvent l'utiliser, la mettre en pratique au travers d'un quotidien, finalement, et de la facilitation de leur vie professionnelle au service du service de la mission qui est attendue de leur part. Donc, il y a un côté pratique, en fait. on leur propose de travailler avec cette donnée au travers de cette démarche innovation, au-delà du rôle de référent donné à citer.
C'est vrai que quelque part, c'est facile, mais je pense que vous savez aussi dans votre métier, d'attraper les opérationnels par les valorisations, protection. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tout un tas de cadivelles, etc. Après, la difficulté, c'est de pas être trop castrateur avec les règles de protection, mais de les appliquer quand même au minimum pour pas tomber dans le risque.
Un dialogue qui s'établit d'ailleurs avec le national, souvent, qui rappelle les règles et qui fait qu'on trouve le bon curseur dans ce qu'on propose en termes d'innovation. Paro, une question?
Oui, sur les problématiques de souveraineté et d'autonomie numérique. dans les années 2020, en 2020 exactement, il y a eu un renversement avec une jurisprudence européenne, la jurisprudence Schrems, qui pointe clairement les risques d'utilisation des données par des acteurs extraterritoriaux. Et du coup, ça rentre directement, à mon sens, dans les problématiques de secret médical, que je développerai un peu plus tard. Mais beaucoup d'acteurs français, y compris étatiques, aussi des cloudeurs potentiellement américains, comme Amazon Web Services, par exemple. Ceci, je pense, fait courir des risques pour les citoyens et aussi même pour les secrets industriels. Parce que du coup, vous parliez de vos concédants, il y a presque un autre concédant externe dans tout ça qui est Amazon Web Services. Et donc, comment vous intercalez tout ça et les politiques d'accès et ce risque-là d'accès par des tiers, y compris américains, à ces données, en l'occurrence américaines, parce qu'on parle d'Amazon. Et peut-être que je me trompe d'ailleurs, mais j'ai cru lire que par exemple, Kennedy, c'était chez Amazon, était chez Amazon en ce moment.
Alors, je ne sais pas si je suis mieux qualifié pour répondre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a, il y a toute une politique cybersécurité et donc de règles d'utilisation des données, de transfert des données. Et quand je disais tout à l'heure que pour toute application aussi, moi, mon boulot, c'est de dire voilà la sensibilité de l'application. Mais il s'arrête là. C'est-à-dire que derrière, c'est vraiment notre DSI qui dit on a 5 niveaux de sensibilité de la donnée. Hein. Soit c'est nul, soit c'est faible, ensuite important, essentiel, capital. À partir d'important, voilà, on regarde les choses et à partir d'essentiel, c'est des niveaux de sécurité qui nous montent le capital encore plus. Je ne sais pas dire par rapport aux solutions américaines, je ne suis pas le mieux qualifié, mais il y a vraiment, c'est par exemple en ce moment avec la crise russe et la guerre en Ukraine, on a vu tout un tas de procédures arriver, ça s'est renforcé d'un cran. Enfin, il y a une grosse attention qui est portée là-dessus, ne serait-ce que parce qu'on est opérateur de services essentiels, ce qui est une qualification avec des droits, mais surtout des devoirs, et qui nous oblige donc à faire très attention sur ces aspects-là. Je ne peux pas vous répondre beaucoup plus, parce qu'après, je ne connais pas ces solutions.
Pas des données de santé, mais je sais qu'au Québec, les données du gouvernement sont gérées par Amazon et par Microsoft Azure. Et il y a eu un débat justement de souveraineté numérique et un choix qui a été décidé, c'est de dire oui, effectivement, il peut y avoir des risques, notamment via Patriot Act ou FIFA, que les données soient accessibles par le droit externe, mais d'autre côté, le budget de Microsoft est tellement grand en termes de sécurité qu'on préfère avoir une entreprise dont le core business c'est la sécurité plutôt que maintenant plus local qui forcément ne pourra pas avoir le niveau de compétence. En tout cas, je suis tout gouvernement à eu ce débat-là sur vraie question de souveraineté, sur le strict point de vue de l'hébergement, une ouverture sur des entreprises états-unis. Dans une situation qui est très particulière, au niveau du marché complètement intégré avec le voisin du Sud. Donc, situation très, très, très particulière. Et puis, c'est très facile de détester les GAFAM sur la question de données. Mais là, on a quand même une approche où les données sont simplement hébergées. Elles sont disposées simplement.
Et sur Health Data Hub, on a eu exactement la même problématique avec le contentieux du Conseil d'État, c'est-à-dire que la plateforme des données de santé, Health Data Hub, est hébergée par Microsoft Azure, en France, de santé. Il y a eu beaucoup d'émotions, telles que vient de nous faire partager donc M. Parot sur évidemment tous les risques de fuite de ces données, en tout cas les risques de captation par les tiers. Des garanties ont été apportées par 3 avenants par Microsoft Azure, des garanties qui, d'un point de vue juridique, sont totalement satisfaisantes. Mais malgré tout, le gouvernement français a pris la décision de résilier le marché public, puisqu'il s'agissait d'un marché public et d'attribution de Microsoft Azure, d'ici donc la fin de l'année, en prenant du coup le risque de payer les dommages intérêts pour notre considérable, parce que ça, on ne le dit pas, il y a quand même ici réparation. Et ensuite, donc, du coup, de repasser une commande publique pour trouver un autre hébergeur. Et dans ce cas, les règles de la commande publique empêchent tout protectionnisme national en la matière. On s'interroge sur, en réalité, quel est l'objectif de fin. C'est-à-dire, est-ce que l'objectif, c'est d'accorder finalement l'hébergement exclusivement à un Français? On ne peut pas le faire d'un point de vue juridique en France. Il y a les règles de passation interdites. Donc, est-ce que finalement Microsoft Azure, c'était si terrible que ça? Nos enfants, les livrets scolaires de nos enfants sont hébergés sur Amazon. Donc, en fait, la problématique, c'est pourquoi le gouvernement français certifie tous ces sites en tant qu'hébergeur de confiance, si ensuite on nous impose une difficulté.
Est-ce que la question, elle ne peut pas se résumer d'une autre façon? Au Québec, est-ce que vous avez des lois extraterritoriales? Est-ce que, en fait, parce que ce qui fait peur aux gens, c'est la menace d'un État tiers sur les données françaises. Est-ce qu'on n'est pas dans un concept où de la dissuasion est globalement applicable? Puisque, en gros, si ce qu'ils peuvent faire chez nous, on peut le faire chez eux, personne ne pourra, on aura tendance à moins bouger. Je pense que ce qui, on parlerait de la confiance, on n'est plus dans un art, ni dans un objet juridique, ni dans un objet médical, on est vraiment de l'ordre de la confiance. Comment est-ce qu'on rétablit ce contrat de confiance entre la population et l'hébergement des données? Ça, c'est un sujet qui est vaste, mais une partie de la réponse, elle peut aussi être sur un personnel juridique. Et concept d'extraterritorialité américaine qui a été largement utilisé, qui n'est pas juste un concept, qui est une réalité, que les Européens n'utilisent à ma connaissance que peu ou pas du tout, pose aussi le problème de l'action des pouvoirs publics en cas d'ingérence d'un État tiers dans les données des États et des particuliers. Quel est le pouvoir de l'État pour les protéger? Enfin, on touche plutôt à mon sens dans cette question psychologique à la limite que se sont donnés les États par les outils juridiques qu'ils ont construits avec l'Europe. Et faut-il, la question que ça pose, c'est faut-il aller vers une extraterritorialité à l'américaine ou est-ce que c'est juridiquement non pertinent? Je ne sais pas si au Québec vous avez une possibilité d'extraterritorialité comme dans les États-Unis vis-à-vis notamment d'un État tiers.
On a le même arsenal, mais c'est totalement théorique de pouvoir lutter contre les États-Unis. On pourrait avoir juridiquement droit, mais parce qu'ils sont américains, parce que ce sont des multinationales dont la valeur économique est plus importante que le budget d'un petit Québécois, ça devient très, très... En matière de sécurité, on a toujours des questions de sécurité 100% indigène. Il y a une évaluation de la solution qui est la plus dangereuse. Moi, sur les strictes questions d'hébergement, j'ai une tendance à tolérer le fait d'avoir certaines de mes données qui soient localisées, qui soient éventuellement prêtes. Elles sont pas là. Vous le savez, autant que moi, avec Azure, il est tout à fait possible de localiser les données dans un territoire donné. Donc, les données sont localisées, les données du gouvernement du Québec sont localisées au Québec. Mais si on regarde, c'est pas trop le Patriot Act, c'est le FIFA, pourrait y avoir théoriquement une possibilité pour les Américains d'accès à des données qui sont sous le contrôle de l'université américaine. Donc cet élément territorial, interterritorial-là, forcément.
Sur l'avenant, moi je m'inscris en faux dans la hiérarchie des normes des lois. L'avenant qui est un contrat n'a aucune valeur par rapport au FISA et à des textes américains qui eux sont c'est une part de la sécurité défense. C'est pas parce que il y a un contrat entre Microsoft et le gouvernement français que Microsoft, qui est de juridiction américaine, va prendre en compte ce contrat. Il a par-dessus un autre texte qui lui dit dans le secret, il peut faire des accès aux données. Donc, à mon sens, l'avenant ne protège malheureusement pas d'accès extraterritoriaux liés à FISA, Executive Order 1233. Et d'ailleurs, la CNIL le dit dans un avis motivé sur les problématiques d'extraterritorialité. Le RGPD a des effets extraterritoriaux aussi. Donc, en effet, on a tous les textes, beaucoup de textes ont des effets extraterritoriaux. Mais la Cour de justice de l'Union européenne invalide les accords internationaux parce que FISA et l'executive order ne permettent pas de compensation pour les citoyennes et les citoyens européens. Que malgré, en fait, ça dépasse. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'organisme. Un Européen ne peut pas aller voir un organisme en lui disant je m'oppose, je veux mon droit d'information, mon droit de rectification, mon droit d'opposition. Tout ceci est strictement impossible à faire pour un Européen envers les juridictions américaines en l'occurrence. Et ça contrevient au RGPD très clairement. Mais par contre, sur tous les textes ont des effets extraterritoriaux, ça c'est clair. Et sur la résiliation du contrat, je n'ai pas vu de résiliation du contrat passé envers Microsoft. Pour moi, les choses continuent telles quelles.
Une question sur, sur les données de santé, alors qui s'adresse sans doute à plusieurs personnes. Préciser la question. Quand on entend parler Enedis, qui est une entreprise, on voit que le rapport aux données, la façon dont on les qualifie, dont on les traite, est lié au métier et à la stratégie. Vous avez des données métiers, et puis quand vous avez à classifier les données entre très sensibles ou pas sensibles, c'est en fonction d'une stratégie d'entreprise, de contraintes réglementaires qui sont données. Donc il y a vraiment un intérêt pour parler du gouvernement de la donnée à bien comprendre le modèle d'affaires ou le modèle politique dans lequel on se trouve. Quand je regarde les données de santé, j'ai le discours que l'on peut avoir en tant que citoyen, c'est que ces données, c'est une grande masse de données qui va être mise à la disposition de beaucoup de monde et que chacun pouvant prendre des données qui lui conviennent, il vivra heureux pour se faire. Donc, on ne sent pas cette réflexion stratégique sur les données de santé. Alors, des questions de souveraineté, par exemple, peut-être, avec la fleur, donc ça sera une question que je pose, c'est on parle de souveraineté aussi sur les données de santé, mais on ne sent pas cette dimension stratégique. Or, et c'est la question que je vous pose, est-ce qu'il y a une réflexion, une amorce de nuance par rapport à ces données? On pourrait, par exemple, dire, bien, je fais de moi et un état donné, je fais de la lutte contre telle maladie priorité, et donc j'ouvre l'accès des données de santé pour tous ceux qui veulent lutter contre cette maladie à tous les niveaux. Donc, ça peut être des généralistes, ça peut être des chercheurs. On pourrait avoir aussi des contextes d'âge, par exemple dire, ben voilà, on sait que les gens de telle génération, tel type de, je sais pas, de préoccupation au regard de la santé, et donc je mets ma politique de santé, ma politique d'accès aux données en rapport avec ça. Donc voilà, une réflexion un peu stratégique, et ça, voilà, on a cette idée du grand bac de données où chacun vient se servir. Il y a aussi d'autres, deuxième question qui est liée à ça, à cette idée qu'on a ce grand bac, c'est qu'il n'y a pas autour de ces données des questions connexes, de l'accès aux données, du traitement des données, des questions connexes. Alors, j'en ai une qui me vient à l'esprit. On sait que quand on parle de médecine, l'alliance entre les médecins et les laboratoires ou les entreprises qui développent des médicaments peut parfois être problématique. Est-ce que la question des données amène à repenser les réglementations connexes? Donc, je viens d'en donner une sur les conflits d'intérêts. Parce qu'après tout, on pourrait avoir certaines entités qui ont accès à des données par l'intermédiaire de personnes ayant elles-mêmes le droit d'accéder à ces données. Donc, en fait, il y a deux questions autour de ce chaudron qui contient quelque chose de très bénéfique pour tout le monde. Est-ce qu'on a réfléchi un petit peu à différentes stratégies autour de ça et dans quel sens? Est-ce qu'on fait des différences ou est-ce que c'est la donnée de santé? Et puis ensuite, est-ce que quand on parle des données, on a une réflexion sur des droits connexes? Donc, j'ai parlé des conflits d'intérêts. Il y en a certainement d'autres qui sont en jeu, qui peuvent être impactés par ce rapport qu'on a à la donnée. Voilà. Alors, je ne sais pas à qui ça. Je pense que tout le monde peut avoir un petit coup de réponse à ça.
En deux ans, sur les données de santé, il y a Si j'ai bien compris, c'est ce qu'il y a une sorte de hiérarchie. Il peut y avoir une sorte de hiérarchisation sur les données de santé.
Oui, ou au moins une stratégie, pas forcément une hiérarchisation, mais une stratégie.
C'est vrai que, parce que techniquement, on est obligé d'appliquer la loi, forcément, et du coup, c'est presque impossible, comme le RGPD définit les données de santé comme étant des données sensibles, à partir du moment où ce sont des données de santé, elles restent dans le cadre de données sensibles. Et donc, il n'y a pas de possibilité, d'ailleurs, on a, dans le cadre d'un contentieux qu'on a eu dans la campagne de vaccination, c'était bien l'enjeu de savoir est-ce que les données de rendez-vous, par exemple, sont plus ou moins des données de santé, des données sensibles que d'autres données. C'est sur une information de santé, et donc c'est une donnée de santé, et donc c'est une donnée sensible. Et donc il n'y a pas de hiérarchisation possible. Après, ce qu'on peut faire, c'est les pseudonymisations, anonymisations, des choses comme ça, qui permettent de diminuer des risques. Mais par contre, quand on est pseudonymisé, c'est pas encore une donnée de santé. Et donc il y a encore toutes les contraintes techniques de sécurité et réglementaires qui s'appliquent dessus.
Vous avez d'autres problématiques, c'est dans les données de santé, il y a des données, quand on dit données de santé, les données administratives du patient, elles ne sont pas vraiment, ce ne sont pas des données de santé. C'est-à-dire, au moment où on prénom, il y a des données sensibles. Mais on va considérer que dans les données de santé, parce que ça fait partie finalement des données qui permettent aux gens de se faire.
Un nom associé à un médecin.
Mais en tant que tel, c'est pas
juste une colonne. Si c'est un tableau avec nous, mon prénom, là pour le coup, ça c'est des données personnelles. Mais par contre, c'est vrai que dès qu'on met par exemple un parcours de soins, là c'est.
Il y a une partie des données dont vous parlez jamais, c'est intéressant, on est dans une université, on ne parle pas des données de la recherche. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, depuis 5 ans, on parle des données en général. Et on parle pas du tout des données, et d'un groupe, une grosse partie du problème sur les données qu'on a, c'est qu'on génère de la donnée de façon qui va nous permettre de faire les remboursements, qui est d'ailleurs avec tout notre donnement scientifique, c'est l'évidence de la médecine, c'est des essais randomisés. Et on n'a jamais accès aux données, c'est à très mauvais comparables. Parce que ces données sont en théorie accessibles, en pratique, quand vous cherchez à les récupérer, mes collègues ont fait une thèse de statistique et qui a été de merger des données de 14 essais internationaux, il y a 2 ans. Et donc, en gros, l'accessibilité aux données, c'est les données en temps réel, mais le grand impensé de la stratégie gouvernementale aussi, c'est d'obliger les publications qui amènent à des autorisations de mise sur le marché, notamment, puisqu'elles amènent à un remboursement, à dévoiler les données, tout le monde à les rendre accessibles, déterminer la gouvernance sur ces données, pour pouvoir faire accéder à la recherche, parce que quand les deux essais qui ont un même bras commun, on a des articles statistiques qui permettent de prédire la comparaison entre de traitements qui n'ont jamais été comparés. Et ça nous permettrait d'avancer encore plus vite sur les choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a un présupposé dans tout ce qu'on dit depuis ce matin, c'est que l'évolution de la science est linéaire. Je pense que c'est entièrement faux. On voit bien que quand vous cherchez ce qui va être disruptif en santé, vous ne trouverez pas dans les bons journaux scientifiques, vous trouverez dans les équipes beaucoup plus confidentielles, et que les données ne permettent pas forcément de prédire ce qui va arriver derrière. C'est une partie de votre intervention sur la médecine préventive et prédictive. Et oui, ça permet de tracer quand notre évolution est linéaire, mais il ne faut jamais oublier qu'en santé notamment et en sciences en général, il y a des disruptions, et ces disruptions sont mal prédites par les jeux de données. Et donc, il ne faut pas le fait d'avoir une vision uniquement données-centrée est un peu gênante, puisqu'elle n'anticipe pas bien. Des sauts majeurs en termes de capacité. Et on voit bien que c'est très bien d'avoir les données pour gérer le quotidien, ça répond très très bien à la question de la gouvernance, des dépenses de soins. La prédiction d'innovation, en revanche, est plus discutable sur juste des données historiques. En tout cas, ça permet de sortir des informations, mais ça ne permet pas forcément de prévoir ce que sera demain notre médecine, de santé, notre système de santé, et demain notre capacité à gérer une maladie. Et c'est très enjeu dans la médecine prédictive. Moi, je me souviens d'un film qui m'a marqué quand j'étais adolescent, qui est Bienvenue à Gattaca, qui décrit très très bien cette problématique. Il décrit est-ce que la prédiction que je fais à un instant T sera vraie au moment où elle est censée se réaliser? Et ça, c'est souvent en médecine pas vrai. Et il faut vraiment qu'on se méfie beaucoup dans l'engouement autour de ces données de santé, sur notre capacité à prédire. La méthode de vous apprendre que c'est juste. Et en santé, les conséquences sont plus ou moins justes. Parce que ça va exclure, par exemple, on a l'exemple typique hein, des prêts bancaires. Vous avez une information de santé qui peut vous amener à être exclu ou amener à un sur-risque. Est-ce que ce sur-risque est justifié? Je ne sais pas. Et on prend souvent les données de santé pour les transposer dans des domaines qui ne sont pas de la santé, sans prendre la précaution des intervalles de confiance, de la fiabilité du résultat qu'on donne. Et c'est très dangereux aussi d'utiliser de façon prédictive. Et moi, j'ai vraiment une réticence sur la médecine prédictive parce que on entend beaucoup parler, c'est un grand fantasme. Néanmoins, la réalisation de cette prédiction est souvent assez fausse. On voit, quand on nous demande combien de temps, le docteur, je demande dans combien de temps. Moi, je réponds systématiquement, je sais pas, je vais dire sur 100 patients, mais dans votre cas individuel, j'en ai aucune idée. Et on a des outliners qui vont être très loin de notre prédiction initiale. Faut-il encore que ma prédiction soit juste? Ça a des conséquences. On voit très bien, on a des modèles, notamment ce qu'on appelle du next generation sequencing, où vous allez regarder la tumeur et vous allez comparer tout le génome de la tumeur, vous le comparez au génome du bonhomme. Et de temps en temps, vous trouvez quelque chose que vous n'avez pas prévu dans le génome du bonhomme. Vous trouvez qu'il a un facteur prédisposant, un facteur prédisposant à une maladie génétique. Qu'est-ce que vous faites de cette information? Vous la donnez? Et dans ce cas-là, s'il va prendre un prêt, il est obligé de l'annoncer à son assureur. Et donc, vous intuisez pour un risque théorique dont vous ne savez même pas s'il aura vraiment lieu, un risque et une conséquence sur la vie des gens. Vous avez un préjugé d'anxiété, l'amiante explique sur l'amiante, en termes de droit, cadrer le débat là-dessus. Donc, vous pouvez amener un préjugé d'anxiété pour un truc que vous n'allez pas rechercher. Donc, vraiment, il y a l'utilisation des données prospectives en termes de recherche, de carburant intellectuel. Là, je pense qu'on a peu de limites à avoir. Il faut se méfier de ce qu'on en fait quand on les re-rentre dans la vie réelle. Et ça peut être très dangereux pour l'individu. L'exemple des données de génération, de next generation sequencing, on va prendre tout un génome d'un patient pour le tester, c'est ce qu'on fait tous les jours à l'hôpital. Donc il faut qu'on se restreigne et que les règles de gouvernance sur les découvertes fortuites de gènes de prédisposition soient très claires. Et ça reste pour l'instant un domaine non cadré dans la génération des données.
Juste un commentaire, je trouve ça très intéressant, mais moi ça rejoint beaucoup à certains égards l'hypothèse de frugalité des données. Que c'est pas parce qu'on a plus de données que c'est forcément. Petit commentaire, peut-être pour répondre à votre question, je trouve qu'il y a un principe, on va dire, d'une privée qui vit mal, parce que je crois qu'il n'est pas neutre sur le plan technologique, c'est le principe de finalité. Et à certains égards, là, je trouve le droit un peu castrateur, qui empêche parfois certaines utilisations des données du fait d'une application trop rigoriste de ce principe, même si... que dans la loi française, je pense, chez nous aussi, mais pas répété de la même manière, il y a une simplification légitime, etc., qui met un peu de lubrifiant dans cette utilisation un peu rigoureuse des choses, mais je trouve que le principe de finalité est un principe qui vit.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Je propose de poursuivre. C'est le JavaScript, ça nous permet de lutter en toute discrétion, mais en rentrant. Je dis que c'est tout.
Oui, maintenant.
Est-ce que vous voulez une fois de 5 minutes ou pas? Merci.
5 minutes.
5 minutes et.
Mais ça me fait chaud. Et c'est vrai. de le ménage,
Alors, nous allons donc attaquer la deuxième partie de notre programme, cette fois-ci sur l'exemple de mon espace santé. Un exemple qui nous intéresse tous, puisque nous avons tous reçu, je pense, le courrier de la Sécurité sociale nous demandant si, nous informant de l'existence de mon espace santé, que si jamais nous n'avions pas envie d'activer cet espace, nous avions la possibilité donc de le désactiver dans un délai d'un mois, mais qu'en l'absence d'action positive de notre part, mon espace santé donc serait une réalité et plus qu'une réalité puisque le contenu est déjà il est déjà alimenté de données de nos données de santé sur les deux dernières années. Ça veut dire qu'on ne découvre pas un espace qui est vide. Nous allons donc écouter et je remercie beaucoup pour leur venue à l'université, monsieur Adrien Parot et ensuite monsieur Fabien Lebras. Et je donne immédiatement la parole donc à monsieur Parot pour se présenter et faire son intervention. Nous allons écouter avec beaucoup de plaisir. Merci encore.
Merci. Je vais pas parler que de mon espace santé, parler plus généralement du plan santé 2022. Qui maintenant est à son terme. Cette première diapo pour désacraliser un petit peu ce qu'est un algorithme. C'est en fait une recette de cuisine qui est programmée, au lieu d'être faite par un cuisinier, bah, c'est un informaticien qui va donner une série d'instructions à cette cuisine, pour faire un système expert pour, qui peut être appliqué en médecine, dans l'électricité, dans plein d'autres domaines. Donc ça, c'est 4 lignes de code qui permettent de imprimer la valeur d'un nombre qui est augmenté à chaque tour de boucle. La boucle, c'est le while. Par exemple, c'est un langage qui s'appelle du Python. Et donc, voilà comment faire des boucles en Python. C'est finalement pas si compliqué que ça. Et puis, évidemment, après, ça se complexifie. Mais le while, par exemple, c'est vraiment une instruction de base d'informatique qui est utilisée par tous les informaticiens de France et d'Allemagne. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc, c'est des algos. Elle ne reproduit pas, elle n'égale pas l'intelligence humaine. Et donc, en fait, l'IA naît dans les années 50, une conférence qui s'appelle la conférence de Dartmouth, où il se propose en 2 mois de résoudre toutes les problématiques de l'intelligence artificielle. C'était donc déjà, l'IA, c'est un peu d'emblée quelque chose qui est presque délirant, enfin, qui est résolu en 2 mois, mais toujours... Évidemment, on n'a pas d'intelligence artificielle forte actuellement. Et quelqu'un qui est quand même une des personnalités des réseaux de neurones dit que non seulement on n'en a pas, mais on n'a aucune idée de comment faire une intelligence artificielle forte. Donc, bien sûr, pour rebondir sur la news de Google, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'IA forte. Donc, l'intelligence artificielle, initialement, c'est des systèmes experts en médecine. Par exemple, ça peut être comment trouver un micro-organisme donné en fonction de certains critères, est-ce qu'il a une grande jambe. En gros, c'est un peu le qui, et puis on enlève est-ce qu'il est grand, petit, est-ce qu'il a des lunettes, clac, clac, clac. On arrive à trouver notre bactérie, par exemple, on arrive à trouver une personne. Les règles de l'intelligence qu'on met en code, ça s'appelle un système expert. À la suite, il y a le machine learning et le deep learning, et les réseaux de neurones qu'on utilise, dont on entend beaucoup parler actuellement. Le problème de tout ça, c'est qu'il y a eu un renversement épistémologique complet de la science. On a fait nos études de médecine avec l'evidence-based medicine, donc la médecine fondée sur les preuves, qui est héritée de Claude Bernard, entre autres, principalement, qui se propose de faire des hypothèses, de recueillir des données, et ensuite, à partir de ces données, de valider ou surtout d'invalider, ça marche beaucoup par négation, la science, d'invalider l'hypothèse. Et tant que l'hypothèse n'est pas invalidée, elle est valable. Le revirement épistémologique, c'est que maintenant, on a des données et on va essayer, à partir de ces données, de repartir sur le cas général. Donc, ça s'appelle, au lieu de faire de la déduction, qui est la démarche scientifique de base, on fait maintenant de l'induction. Donc, ça, c'est vraiment un autre mode de pensée. Ça peut nous faire des bêtises. C'est un site qui est un peu connu qui se propose d'étudier des corrélations entre des données. Donc, il y a une corrélation entre le taux de divorce dans un département aux États-Unis, dans une région, le Maine, et la consommation de margarine. Il y a plein d'autres liens entre des données qui s'avèrent, en fait, évidemment que personne ne ferait l'hypothèse de dire qu'il y a sûrement un lien physiologique, physiopathologique, pharmacologique, je ne sais pas comment, mais en tout cas un lien, et de tester cette hypothèse entre une consommation de beurre et un taux de divorce. On est donc dans ce qu'on peut qualifier the code is law, le code est la loi, qui est formulée par Laurence Lessy, qui est un professeur de droit, qui, à mon sens, les applications, enfin le corollaire de ça, c'est par exemple le compte de Donald Trump qui est brutalement, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, supprimé de Twitter par des codeurs. La moralité ou la légitimité de le faire, mais en tout cas, c'est fait par des informaticiens, des codeurs. Sur, tu parlais de tout à l'heure de la prédiction. En fait, on prédit surtout le passé. Donc, en effet, les intelligences artificielles se contentent de prédire des choses qui se sont déjà passées, Donc, il n'y a pas d'innovation, d'invention avec une IA. C'est forcément, comme on s'appuie sur des données qui sont passées, forcément, on reproduit ce passé. Ça pose même des questions aussi éthiques. Et donc, c'est illustré formidablement par une intelligence artificielle qui s'appelait Tay, plus vous chattez avec Tay, plus elle devient intelligente. Plus il y a de données, plus elle est intelligente, mais elle parle, mais elle prend avec vous. Donc, cette intelligence a produit ça. Je vous laisse lire, j'ose pas le prononcer, mais des choses abominables. En fait, elle avait juste été nourrie de messages haineux de personnes qui alimentaient cette IA en données. Et donc, cette IA produisait ce qu'elle avait appris et elle reproduisait finalement son passé en disant des choses abominables. Et finalement, progressivement, donc il y a une dualité entre Code is Law et Law is Code, et du coup, l'application de ça, c'est, à mon sens, le RGPD et le FISA, le Foreign Intelligence Surveillance Act, qui est un texte qui est issu du Patriot Act, à la suite des attentats du 11 septembre, et qui pose de gros problèmes, à tel point que l'Union européenne énonce donc la limitation de la protection des données à caractère personnel qui découle de la réglementation interne des États-Unis portant à l'accès à l'utilisation par les autorités publiques américaines de telles données transférées depuis l'Union vers des pays tiers ne sont pas encadrées d'une manière à répondre à des exigences substantielles équivalentes à celles requises en droit de l'Union. Et la CNIL, le président des universités, la CPU, il y a eu une demande d'utilisation de la légalité des utilisations des outils comme Teams dans le cadre des universités. Et donc la CNIL dit, compte tenu du risque d'accès illégal aux données, la CNIL appelle à des évolutions dans l'emploi de ces outils et accompagnera les organismes concernés pour identifier les alternatives possibles. En Allemagne, ils avancent beaucoup, ils sont plutôt avancés sur ça. Ils utilisent par exemple Big Blue Button, qui est un équivalent Teams qui fonctionne bien. Il y a certaines universités qui l'utilisent aussi en France. Tout ça, en fait, donc on parle de RGPD, donc on parle de données personnelles ou non. Donc l'anonymat, ça c'est ce que Edward Snowden, qui est un célèbre lanceur d'alerte, dit. Le droit à la vie privée ne me préoccupe pas parce que je n'ai rien à cacher, ça revient à dire. Je me moque du droit à la liberté d'expression parce que je n'ai rien à dire. Ce qui revient à dire, je me moque de la liberté de la presse parce que je n'ai rien à écrire. Sur l'anonymat, ça c'est une caricature du New Yorker, 90, qui disait, c'est super, sur Internet, personne ne sait que tu es un chien. Donc on avait, avec les pseudos, le pseudonymat, on avait un relatif au risque d'identité. Et du coup, le même caricaturiste a évolué sa caricature en disant que maintenant, personne ne peut garantir l'anonymat. Ça a été quantifié par une étude de Nature qui montre que, à partir de certaines variables, on peut identifier facilement un individu dans une population. Donc l'anonymat complet ne marche plus. Et si on lève la main je suis un homme, déjà, ça élimine des personnes. Je suis né le 1er janvier 89, je pense que je suis presque déjà seul. Est-ce que je suis marié ou pas? Enfin, ça peut continuer comme ça. Mais en fait, on voit que là, très facilement, on nous identifie. Parler rapidement des entrepôts de données de santé, parce que mon espace santé et le plan santé 2022 rentrent, les entrepôts de données de santé rentrent clairement dans ce système, dans cet écosystème, et surtout dans le Health Data Hub, qui est l'entrepôt de données de santé français national, qui est hébergé chez Microsoft Azure. Donc ça veut dire que toutes les données de santé des Français et des Françaises sont hébergées chez Microsoft Azure. C'est un volume de données qui est important qui est identifiant, donc les données sont pseudonymisées. Ça veut dire que les variables directement identifiantes, comme le nom, le prénom, par exemple, sont enlevées. Mais dans un volume de données, il y a des terras de péta de données. C'est très, très facile de réidentifier quelqu'un, bien sûr. Et ça, c'était la diapo pour montrer le plan santé 2022. Donc, on voit mon espace santé, des bouquets de services, le DMP, enfin voilà, plein de choses, l'ICPS, voilà, plein de services numériques. Et au toit de la maison, le Health Data Hub, qui malheureusement est chez Microsoft Azure. Mon espace santé, les points d'alerte, donc en effet, déjà pour en deux mots, mon espace santé, c'est l'évolution du DMP avec d'autres services, donc c'est tous le dossier patient, toutes des PDF, les comptes rendus d'hospitalisation par exemple, voyons-le comme des documents, en tout cas quelque chose de plutôt figé dans le PDF, plus plein d'autres services, donc un carnet de vaccination, un agenda pour prendre des rendez-vous, et d'autres services tierces qui sont référencés par mon espace santé, qui vont s'interfacer avec mon espace santé. Les plus grosses inquiétudes, c'est vous parliez tout à l'heure de l'opt-out, donc le fait que on est dans mon espace santé tant qu'on n'a pas dit non. Donc en gros, on est dans un système où tant qu'on dit pas non, je dis oui. Ce qui peut être critiquable, ce qui alors on comprend pourquoi, c'est pour que toutes les données soient dans mon espace santé, parce que sinon évidemment des personnes se poseraient. Mais le corollaire de ça, c'est que les gens doivent comprendre les enjeux pour pouvoir refuser ou pas. Et nous, la plus grosse, en tant qu'association, la plus grosse crainte, c'est l'interfaçage de mon espace santé avec plein d'autres services. Et donc, en l'occurrence, il y a Abbott, Withings, Elsan, Doctolib, La Poste et les Hospices Civils de Lyon qui sont dans les préfigurateurs des services qui vont s'interfacer avec eux. Pour revenir sur les problématiques de droit américain, donc Abbott, c'est carrément une société de droit américain. C'est juste, on est dans un no man's land juridique. Je rappelle qu'il n'y a plus de traité d'adéquation Europe-États-Unis à l'heure actuelle. Il n'y a vraiment il y a plus rien. Et il n'y a aucun texte, même les clauses contractuelles type ne permettent pas de se protéger. Donc on est... Et il y a d'autres boîtes qui sont de juridiction française, donc Wissing, Alsan et Doctolib, mais qui, elles, sont soit chez Google, Wissing, j'ai un doute, mais je crois que c'est Google, Google Cloud Service, et Alsan et Doctolib, c'est Amazon. La Poste, c'est La Poste, et les hospices civiques, à ma connaissance, ils ont leur propre infra. Tout ça, ça rentre dans une politique qui est globalement une politique de centralisation. Le RGPD énonce un principe de proportionnalité. Donc, à mon sens, le corollaire technique de la proportionnalité, c'est la décentralisation technique. Donc, de mettre des données là où on en a besoin. Donc, il faut pouvoir se partager les données. Il faut une gouvernance adéquate pour pouvoir partager des données, mais pas réunir tout le temps toutes les infos de santé au même endroit et de façon de plus en plus concentrée. Donc, déjà, la PHP, moi, j'ai travaillé à l'entrepôt de données de santé. Donc, déjà, la PHP, c'est une dizaine de millions de patients, c'est déjà une concentration. Le Health Data Hub, c'est la nation, c'est une plus grosse concentration. L'Union européenne, le data space européen, c'est encore une plus grosse concentration. Il n'y a aucun système informatique qui est parfait. On entend beaucoup parler des problématiques dans les hôpitaux, c'est vrai qu'il y en a. Il y a aussi des problématiques dans les laboratoires d'analyse. Dernièrement, il y a un labo qui a fait beaucoup parler de lui, donc un acteur tout à fait privé. Et aussi, les acteurs supranationaux, comme par exemple Microsoft, tous les 6 mois, il y a des failles, des failles core de Microsoft qui sont révélées. Donc, c'est pas un acteur exempt de failles numériques. Et d'autant plus que l'open source et l'ouverture des codes sources est aussi un argument en faveur de la sécurisation des systèmes d'information. Et ça, c'est promu même par le directeur, je crois qu'il a changé au gouvernement, mais M. Poupard, par exemple, donc l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, promeut l'open source, l'ouverture des codes sources, à des fins de sécurité. Donc il dépend du Premier ministre, enfin, c'est quelque chose d'assez solide aussi. Et le corollaire de ça technique, donc c'est la décentralisation qui permet de faire fonctionner des algorithmes dans différents centres. Et dernière chose, on a parlé en effet, l'objet numérique, l'objet droit, c'est des objets qui sont immatériels, qui ont bien sûr des implications matérielles, mais qui sont, on est dans l'idée. Le numérique a vraiment une part très très physique. La preuve avec les serveurs parle très peu finalement de où sont hébergées les données et sous quelle juridiction ils sont hébergés, elles sont hébergées, donc ça me semble central. Et on parle aussi très très peu de l'impact du numérique qui est important, 10% de l'énergie mondiale, 20% en 2025, et que la moitié presque de l'énergie est produite à partir du charbon. Certains acteurs, donc le fondateur de Skype, qui n'est pas non plus quelqu'un qui n'y connaît rien, parle même de mise en péril de la transition écologique à cause du numérique. Tout ça, ça doit questionner le médecin, qui lui doit prendre en compte plusieurs éléments, donc l'écologie, le numérique, les études, l'état de la science, et en essayant de faire une synthèse pour soigner au mieux son patient, et pas soigner au mieux que physiquement, aussi mentalement, social, c'est la définition de l'OMS. Et dernière chose, je voulais aussi finir sur l'objet centralisation des données et de toujours plus de centralisation. Elle est faite parce que c'est de plus en plus simple de traiter les données. Le corollaire de ça, c'est que s'il y a une faille, et il y en aura une, il ne peut pas ne pas y avoir de faille, l'ensemble des données est accessible en un point unique. Et le corollaire qui, moi, en fait, c'est pour ça le combat d'alerte, c'est que le secret médical, nous, on nous l'enseigne comme étant un colloque singulier entre le médecin et le patient. Donc, on est presque dans une relation à deux interlocuteurs. L'informatique fait forcément rentrer d'autres interlocuteurs, vous l'avez dit tout à l'heure. L'informaticien, en fait, est au centre de la relation médicale, alors que même que le patient ne le sait pas. Quand je travaillais à l'entrepôt de données de santé, pour construire l'entrepôt, je faisais pas les études d'entrepôt de données de santé. Pour construire l'entrepôt de données de santé, j'avais accès à toutes les données de santé de la BHP. Mais tous les entrepôts de données de santé, il y a des ingénieurs qui ont accès à toutes les données et qui, après compartimentent, font des politiques d'accès. Mais forcément, sur un serveur, il y a un big boss, quelqu'un, on appelle ça route. Donc, il est à la racine du système et cette personne route a accès à le système. C'est pas possible autrement, c'est l'informatique qui est conçue comme ça. Et de toute façon, pour enlever les noms et les prénoms, il faut faire un algorithme. Donc, il faut que j'ai accès aux noms et prénoms. Pour enlever les noms et prénoms, il faut que j'ai. Donc, et puis, pour dire qu'un médecin a telle politique de droit, une infirmière, hein, il faut que j'ai accès aux données, que je fasse des politiques. Donc, il y a forcément quelqu'un qui a accès à l'ensemble des données. Donc, centraliser ça avec cette idée-là me semble très, très, très déraisonnable. Surtout que les systèmes de chiffrement de bout en bout, enfin voilà, ces techniques après ne sont pas encore d'actualité. Et donc, c'est un vrai renversement de la relation médecin-malade et du secret médical. On n'est plus du tout dans en fait, le secret médical n'existe plus stricto sensu depuis plusieurs années. C'est la sécurité sociale, depuis la sécurité sociale, c'est le cas. Mais alors là, on rentre dans des frontières, dans des choses presque stratosphériques.
Je pense que vous allez avoir plein de questions après sur votre intervention. Immédiatement, je vais donner la parole à Monsieur Le Braz. Mais en même temps, j'ai des réactions très, très positives, hein, notamment de nos collègues universitaires qui ont la gentillesse de nous suivre, hein, et qui trouvent ça vraiment très intéressant, passionnant. Vous verrez tout à l'heure tous les messages. Qui accueille très chaleureusement vos interventions.
Je
vous donne la parole, monsieur.
Alors, moi, je vais me présenter parce que j'ai plusieurs casquettes et c'est important de savoir d'où on parle pour essayer de trouver. Moi, je suis praticien hospitalier, je suis médecin, je vois des patients à la moitié de mon temps. Je suis hématologue, le cancer du sang au sein d'une unité qui s'appelle l'unité hémopathie lymphoïde et je m'occupe principalement des essais thérapeutiques de cette unité. Par ailleurs, j'ai deux autres casquettes, une qui m'a été donnée il y a plusieurs années, qui était de m'occuper des dossiers patients au sein d'un groupe hospitalier. C'est un job de terrain, de comment est-ce qu'on fait une politique de dossiers patients dans un hôpital. Et cette mission m'a été donnée en 2012 quand j'ai été nommée. Et puis, avec l'évolution du temps, depuis avril dernier, moi j'ai rejoint la direction des services informatiques de la BHP, qui est la direction des services numériques, c'est un IEM, au sein d'une équipe qui s'appelle l'équipe du programme 1. Et l'équipe du programme 1, c'est quoi? C'est le logiciel de dossier médical commun à 38 hôpitaux. Parce que la PHP, c'est un ensemble de 38 hôpitaux répartis sur le territoire, majoritairement en région parisienne, mais pas que, puisqu'on va à Berck, sur Mer notamment, et puis dans le sud de la France, à Andailles. Et donc, on a une gouvernance unique. C'est très particulier sur cet ensemble d'hôpitaux. On a 38 hôpitaux qui ont une gouvernance administrative unique. C'est ça la DHP. C'est une strate de gouvernance. Alors, à ce titre-là, il y a un certain nombre de problématiques sur les dossiers patients. On peut être très terre-à-terre, moins dans les idées, mais plutôt dans le concret. Comment est-ce qu'on fait? On se rend compte que il y a eu beaucoup de projets de dossiers numériques communs en santé et il y a eu beaucoup d'échecs. C'est souligné par Marie Bastien. En gros, on a beaucoup essayé, on a beaucoup raté et il y a quelques modèles, mais peu d'interconnexions réussies. Réussi au sens technique. On discutait de leurs limites et je pense que ça sera l'objet du débat là. Il y a eu l'exemple, par exemple, de notre dossier de patients informatisés sur 38 hôpitaux. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents. On arrive à interconnecter 38 hôpitaux qui fonctionnent avec une seule base de données commune, un seul logiciel qui les fait tourner derrière et donc une mise en commun de ces données. C'est le modèle du dossier patient informatisé de la PHP. Il y a eu le modèle de CIDEP au moment du Covid qui a été très instructif puisqu'il a été nécessaire en urgence pour des raisons qu'on peut discuter, mais d'interconnecter l'ensemble des laboratoires privés et publics sur une seule base de données. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de modèle pour ça. Ce qui nous paraît simple dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire je prends mon smartphone, je transmets mes données, et bien en fait, les modèles d'interconnexion des données n'étaient pas maîtrisés par les acteurs, pas mis en place, et qu'on n'avait pas les infrastructures pour le mutualiser. Et ça a été piloté partiellement à la demande du ministère par les hôpitaux de Paris qui ont mis en place toute une infrastructure technique de remontée de ces données et d'intégration avec tous les risques et les problèmes qu'on a connus sur cette infrastructure technique. Et donc la question, c'est moi en tant que professionnel hospitalier, quelles sont pour moi les limites et les intérêts du DHP? Et c'est avec ce prisme-là que je vais essayer de vous parler et avec les deux axes qui m'avaient été posés qui étaient l'acceptabilité du DHP. Il y a un vrai axe moteur là-dedans. Et la confiance. Parce que, en gros, on s'aperçoit que toutes les questions soulevées par mon collègue, c'est la question de la confiance, du contrôle, de comment est-ce que quand on donne une donnée, on est sûr qu'elle est utilisée pour ce à quoi on compte. Donc, quand on prend les données d'acceptabilité et quand on regarde un peu comment les gens pensent à l'acceptabilité des systèmes numériques, j'ai pris une définition qui vaut ce qu'elle vaut, on peut la discuter, en proposer d'autres, mais il faut qu'il y ait un certain nombre de caractéristiques qu'on considère comme justes. En tant qu'utilisateur. Il faut que ça soit efficace, il faut qu'on soit satisfait de ce que ça nous donne comme réponse sur ce produit numérique, que ça soit facile à apprendre, facile à s'approprier, et que ça soit fiable. Et on va voir que ces caractéristiques, elles ne vont pas être vues de la même manière que vous soyez patient ou docteur. Et c'est toute la problématique de ces dossiers patients. Et puis là-dessus est arrivée une notion qu'on a déjà effleurée plutôt dans le débat, qui est la question de est-ce que c'est utilisable et est-ce que c'est utile, qui, à mon avis, est une notion qui est le grand problème des dossiers médicaux partagés. Pour les professionnels, est-ce que mon espace santé, on m'a demandé mon espace santé, donc je me suis mis du côté de mon espace santé, est-ce que ça remplit ces critères? Est-ce que c'est utilisable? Je pense qu'on peut dire que c'est utilisable. Est-ce que c'est efficient? Ça marche? On voit que le système fonctionne? Est-ce qu'on est satisfait? Globalement, on arrive à passer les informations si on l'utilise, on arrive à peu près à être satisfait. Est-ce que c'est facile d'apprentissage pour les professionnels? Globalement, oui, et facile d'appropriation. En revanche, est-ce que c'est utile? Et c'est là où la question rentre de plein pied et à quoi ça sert. On a déjà évoqué ce sujet sur plusieurs angles. C'est l'utilité que chaque acteur de cette chaîne autour du DMP va vouloir n'est pas la même. L'État va vouloir contrôler ses dépenses, contrôler les dépenses de santé, c'est le leitmotiv. Le médecin va vouloir accéder aux informations. Le patient va vouloir stocker ces informations, s'il sait ce qu'il veut. Il y a beaucoup de profils de patients qui vont avoir des volontés différentes. Le chercheur va vouloir créer de la donnée autour de ces patients et de la connaissance. Et en fait, moi, si je me place d'un point de vue médecin, pour l'instant, ça n'est pas très utile. Pourquoi? Parce que quand j'ouvre les dossiers médicaux de mes patients, d'un point de vue pratique, pragmatique, il n'y a rien, pas grand-chose dedans. Il y a les données de remboursement de l'assistance maladie, ce qui est utile, hein, mais qui est très loin d'une utilisation que je puisse faire en pratique face à mon patient. J'ai 15 minutes pour lui dire bonjour, au revoir, vous avez un cancer. C'est relativement court. Et donc, il faut que dans ce temps-là, j'ai le temps de reprise des informations et ces informations ne sont pas digérées. C'est-à-dire que j'ai aucune notion, par exemple, si j'ai un patient qui a un traitement par voie orale, est-ce qu'il prend bien son traitement? Est-ce qu'il va suffisamment à la pharmacie chercher ses boîtes? Ça, cette information n'est pas digérée. C'est-à-dire qu'on peut la digérer, on peut aller chercher, il a eu tant de boîtes remboursées, ça veut dire tant de comprimés par boîte, etc. Mais ce n'est pas utilisable dans une pratique de tous les jours. Ça, c'est le premier point qui est vraiment un manque. C'est n'est pas suffisamment approvisionné. Mais ça, c'est peut-être un péché de jeunesse. On va formuler ça comme ça, donner le bénéfice. Le deuxième, c'est le volume des données qui est prévu à terme. Quand on déverse des quantités et des quantités de PDF, on tombe sur le problème de la structuration de la donnée. Actuellement, c'est une coquille qui reçoit des PDF. Et lire ces PDF, c'est un temps faramineux parce qu'il faut les trier. Comment est-ce que je sais que l'information que je cherche à obtenir se situe dans tel document au bout de 5 arborescences, volontairement exprès? Eh bien, ça va être la limite. C'est-à-dire que je me plains du fait qu'il est vide, mais quand il est plein, je me plains du fait qu'il sera plein. Et ça, nous, on le voit parce que dans notre dossier patient informatisé, qui est déjà plus hiérarchisé que ça, avec des données quand même plus mieux caractérisées, c'est une plainte récurrente des utilisateurs de dire il y a trop de comptes rendus et la synthèse n'est pas faite. Et en fait, on se rend compte que le travail de synthèse, c'est un travail médical et que on a pensé une solution technique, mais qu'il manque un volet de synthèse. Et la question, c'est qui fait ce volet de synthèse? Parce que, à part les médecins, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir faire un volet de synthèse sur la maladie chronique, sur la prise en charge générale. Et que ça, c'est du temps médical. Et veut-on donner du temps médical à ces synthèses? C'est une vraie question de gouvernance, même de santé, hein, au-delà de l'aspect technique. Le troisième point sur l'utilité, moi, qui me pose un peu de problème, c'est l'interconnectabilité. C'est-à-dire que je peux consulter des données factuellement, mais les réimporter dans mon système pour en faire quelque chose, c'est très compliqué. C'est même pas faisable, sauf une saisie manuelle. Et la dernière chose, c'est, vous avez soulevé la question de l'empowerment, c'est-à-dire la prise en main de cet espace par les patients. Et là, c'est très difficile pour plein de raisons, parce que il y a des populations de patients qui sont complètement exclues de par leur pathologie. Je pensais, par exemple, ici, à des populations qui ont des troubles neurologiques ne leur permettant pas l'utilisation d'un ordinateur. Comment est-ce que nous, système de santé, on prévoit que eux peuvent aussi bénéficier de ces outils numériques. Et ça, c'est hors de l'outil numérique en lui-même, mais ça doit être pensé en termes de gouvernance, parce que si on ne les prend pas en compte, que ce soit parce qu'une maladie les empêche d'utiliser l'espace de santé, ou parce que leur précarité, parce qu'on sait que certaines populations précaires, vous avez souligné qu'au Québec, il y avait une proportion importante de patients qui n'étaient pas capables d'utiliser un ordinateur, on a le même problème, on le voit dans nos populations, on appelle ça le PASS, hein, c'est l'accès aux soins sécurisés pour les patients qui n'ont pas de sécu, comment est-ce qu'on fait les choses. Ces populations sont mises automatiquement à l'écart du système de santé, n'en bénéficient pas, si on ne pense pas au moment de la mise en place de cet outil, à un soutien qui ne peut être qu'humain pour leur permettre de bénéficier de ces systèmes informatiques. Néanmoins, le fait que les professionnels se parlent par ces espaces numériques va permettre aussi de rattraper un certain nombre de choses que ces populations ne sont pas capables de traduire. Quand j'ai une personne qui ne parle pas un mot de français, mais que j'ai le compte-rendu qui me dit ce qui s'est passé chez le cardiologue, c'est plus facile de récupérer l'information. Donc, c'est à double tranchant, et on est là sur la question de l'usage de l'outil. En fait, comme dans tous les outils, ils ont des risques, qui ont été soulignés lors de la précédente intervention, ils ont des bénéfices, et on est vraiment sur une question de quel est le gain vis-à-vis de la paix. L'autre question de gouvernance que ça pose, cet outil pour moi professionnel, c'est un outil parmi une galaxie d'outils proposés par les instances. J'en ai listé quelques-unes pour vous rendre compte de où est-ce que je peux trouver des informations en tant que professionnel de santé. Le DMP, on est d'accord, c'est le ministère qui pilote. Le dossier pharmaceutique, en gros, quand vous allez à la pharmacie, votre pharmacien écrit sur votre carte vitale, donc plus de 40% des cas, « Monsieur Machin a pris 5 boîtes de paracétamol à telle date. » Et ces données sont stockées sur votre dossier pharmaceutique pendant une durée pas très longue, et les dossiers de vaccination pendant une durée plus longue. Et donc, comment interroger dans la carte vitale de mon patient? Qu'est-ce qu'il a eu? Est-ce qu'il a bien pris les médicaments? Est-ce qu'il a les symptômes qui persistent? Est-ce que c'est que j'ai fait la mauvaise prescription ou c'est ce qu'il ne prend pas ses médicaments? Donc, la question de l'observance, le dossier pharmaceutique, le DMP. Il y a le portail Cézanne, qui est le portail des droits sociaux. Le patient est-il de la sécu? Il y a le portail Isapurn, qui est le portail de commande des médicaments. Quand je veux commander un médicament qui n'a pas d'autorisation sur le marché, ce qui est dans ma spécialité, notre lot commun, on passe notre temps à demander des médicaments en accès précoce ou qui utilisent des outils juridiques de mise à disposition un peu particuliers, on est obligé de remplir un certain nombre d'informations par la NSM, c'est un outil supplémentaire. Les statistiques sur les décès qui sont pilotées par l'INSERM, donc sur une plateforme qui s'appelle CertiDécès, un outil de plus. Et là se rajoute la strate de l'ARS, donc la strate régionale des outils de santé, qui s'appelle Cézanne, avec un outil principal en Ile-de-France, c'est l'ORTIF, qui va être un mélange d'éléments de dossier patient, d'éléments de téléconsultation, d'éléments techniques de transmission des radiologies, des éléments de radiologie, scanner, TEP scanner. Comment je peux ouvrir tout ça et l'utiliser dans ma pratique quotidienne. Et en fait, les lister, c'est rendre, montrer que c'est impossible. Je peux pas avoir 10, 12 logiciels ouverts sur mon ordinateur de consultation pour intégrer ces données. Et qu'il y a, en fait, toutes ces briques qui sont en train de se mettre en place vont avoir besoin à un moment ou à un autre de passer par un concentrateur. C'est-à-dire que moi, professionnel, j'ai besoin d'avoir une interface unique sur votre smartphone. Ce qui fait que ça marche bien, c'est quand vous unifiez votre écosystème. Vous avez un Apple et vous achetez tout le temps Apple. C'est plutôt le cas là, sur la table. Vous avez des PC, vous achetez tout le temps PC ou Android, peu importe. Et ça marche mieux parce que les systèmes se parlent. Donc, il y a un vrai problème autour de plein de services qui sont pris à part utiles et utilisables. Mais comment est-ce qu'on les intègre tous ensemble pour que dans mon temps de consultation, ça n'ampute pas mon temps de consultation à aller regarder des informations externes, tout en nourrissant. Et puis, il y a des freins. Des freins, ils ont été soulignés sur le secret médical notamment. Dans le système qu'on nous a appris, quand j'étais petit à la faculté, on m'a appris le secret médical, c'est que tu n'as rien le droit de dire, je fais attention quand tu parles dans l'ascenseur. Sauf que là, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai un certain nombre d'acteurs qui perdent la maîtrise technique du secret médical. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de ne plus maîtriser le secret médical. Avant, ils savaient qu'ils fermaient leur bouche. Ils savaient que le secret ne sortait pas. Moins vrai, mais en tout cas, ils le pensaient comme tel. C'était la façon dont ils le pensaient. Le fait que le dossier papier soit à disposition sur un bureau dans une porte, dans une salle ouverte, ne les arrêtait pas. Mais c'était le ressenti, en tout cas, des professionnels de santé. Et en fait, beaucoup de nos collègues n'ont pas eu de formation au rudiment de la sécurité informatique, ne maîtrisent pas les outils informatiques comme ils le devraient, et sont en vraie difficulté pour garantir un truc qui, pour eux, est essentiel, puisque c'est un serment qu'on fait au moment de la fin de nos études quand on devient docteur en médecine. Donc cet élément majeur du secret professionnel, il est considéré comme perdu. Donc un certain nombre de professionnels sont réticents à l'entrée dans les outils pour ce motif-là. La deuxième chose, c'est que le temps informatique, c'est, vous l'avez évoqué sous le terme de coût des données. En fait, le coût des données, il va être physique, c'est-à-dire combien ça coûte à stocker, etc. Mais il va être aussi un coût en termes de temps. C'est-à-dire que quand moi j'ai 15 minutes et ma temps de consultation n'a pas bougé avant l'informatisation, parce que nous on a été informatisé en 2016, donc c'est où je travaille, j'ai connu l'avant après, on avait 15 minutes avant et 15 minutes après. Et dans ces 15 minutes, moi maintenant, je dis bonjour au patient, je l'examine, je lui fais sa consulte, je lui fais ses ordonnances sur le logiciel informatique, je fais son compte-rendu, il part avec tout le monde. Ce qui est un exercice où il faut tenir le débit, c'est-à-dire qu'on ampute le temps de soins par un temps informatique et ça nécessite que vous sachiez taper la machine. Chose qu'on peut apprendre, mais qui, dans le temps médical et dans la hiérarchie que nous on met, n'est pas forcément ce que je souhaite mettre en tête de gondole. Ce que je souhaite mettre en tête de gondole, et c'est un peu le retour qu'on voit sur l'expérience sur le temps de soins, c'est de dire on passe beaucoup de temps à rentrer d'informations dans des systèmes informatiques pour des bonnes raisons. Ça améliore globalement la sécurité de soins pour plein de trucs, mais ça ampute un truc important, qui est la relation de soins au patient. Et ça l'ampute même d'un aspect physique. C'est-à-dire que quand vous avez un écran entre vous et le patient, dans beaucoup de salles de consultation, vous verrez l'écran, il n'est pas sur le côté, il est entre le patient et le soignant. Et l'ergonomie de ces postes de soins et comment on arrive à remettre la relation humaine au centre, ça sera clé dans l'acceptation de l'intrusion du numérique dans la relation de soins, en mon sens. Et après, la question des outils plus ergonomiques, elle se pose de façon majeure pour les soignants. Alors, moi, j'ai essayé de me mettre côté patient. Je suis pas comme vous tous, je suis aussi patient. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est acceptable pour moi en tant que patient? Est-ce que ça marche? Oui, le système BNP, il marche. Est-ce que je suis à peu près satisfait? Oui, parce que je suis un grand psychorigide, donc j'adore rentrer des données dans des systèmes d'information. Donc, globalement, je suis satisfait. Est-ce que c'est une utilité directe pour moi? Ça, c'est plus discutable. Par contre, ça permet à ce que mes professionnels aient accès à mes informations. J'appelle le SAMU, je suis en situation de stress. Je l'appelle, le SAMU peut consulter le dossier et voir que j'ai telle pathologie et que donc il faut prendre mon appel comme étant prioritaire ou pas prioritaire. Oui, ça peut avoir un bénéfice. Il n'est pas forcément perçu comme direct. Mais j'ai des problèmes quand même nets qui restent. Pour des raisons de sécurité, qu'on peut comprendre, il y a la CNIL a imposé, ou moi je ne sais pas quelle décision technique a imposé une double authentification compliquée. C'est-à-dire que on a des populations qui ont du mal à ouvrir un email et à nous l'envoyer régulièrement. Et là, on leur demande d'être capable de se souvenir d'un identifiant qui n'est pas fixé au préalable, qui n'est pas sur un truc écrit, de se souvenir du mot de passe, d'avoir en plus leur téléphone à côté, puisque ça renvoie sur votre téléphone un code à saisir pour ouvrir le document. Et après, vous pouvez accéder à votre messager. Il y a une vraie question de barrière à l'entrée qui est importante. L'autre jour, pour les besoins de mon métier, je me suis connecté en tant que patient pour faire des envois, des tests d'envoi entre des messageries sécurisées, objectivement, je me suis dit, c'est galère. Et je suis convaincu du système. Donc, il y a un vrai problème dans l'accès à cet espace numérique de santé qui a été très sécurisé pour des raisons que je comprends très bien, mais qui va c'est une espèce d'injonction paradoxale entre ça doit être pratique, mais ça doit être sécurisé. Et moi, je n'arrive pas à résoudre ce problème d'injonction paradoxale dans ces domaines de santé. Il y a une question qui est prévue, qui était l'empowerment, qui était le patient va être acteur de sa santé, ce qui est vrai pour une petite proportion de patients. Mais les gens qui sont capables de faire numériser un document, de le charger sur la plateforme après avoir eu des problèmes d'accès, ils sont sur les CD. Je pense moins de 5% de la population qui va le faire dans les faits. Et donc, ça sera intéressant de voir comment les patients se saisissent de cette capacité d'être acteur. Est-ce que c'est juste un faire-valoir pour rendre acceptable le dossier ou est-ce que c'est quelque chose qui est utile qu'ils en chargent? Je suis moins persuadé de la deuxième partie. L'accès à la messagerie est extrêmement complexe. Tout ce que vous attendez d'une messagerie sécurisée, c'est que ça sorte sur votre téléphone. Vous dites, vous avez un message, vous le lisez. Et là, la messagerie sécurisée, ça nécessite de passer par une double authentification forte, un site informatique, un site fixe et pas une application, et rentrer dans le truc. C'est trop compliqué. Est-ce que c'est facile d'appropriation? Clairement, je pense que j'espère que je vous ai convaincu que la réponse est probablement pas. Et après, la question de l'utilité directe. Qu'est-ce que les patients en font? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il existe cet espace santé, mais qu'est-ce qu'ils en font pour eux-mêmes? En fait, la plupart des patients l'ignorent. Et c'est pour ça que le choix de l'opt-out a été fait. C'est que le bénéfice qu'ils en tirent est à travers la transmission entre professionnels des informations de santé. Ce qui n'est pas nul hein, en termes d'utilité pour le patient. Mais ce qui n'est pas le patient comme acteur majeur de cet espace de soins, en tout cas. Enfin, il y a la deuxième question que Marie m'a posée quand on a échangé sur le sujet en amont de cette intervention, c'était la confiance. Est-ce que j'ai confiance? Et là, je reviens sur les histoires du secret du serment d'Hippocrate. Quand on est à la fac, moi, j'en suis passé régulièrement des thèses. On a un certain nombre de mots qu'on prononce et qui marquent profondément notre exercice. Il ne faut pas les négliger parce que ils ont beau pas être dans la loi, ils sont profondément inscrits dans notre imaginaire et dans notre façon, dans notre psychologie du docteur. Et la non-maîtrise du secret médical est un énorme problème. On l'a vu sur les fuites de données qui ont eu lieu dans le système CIEP, qui était lié à une erreur humaine, on est d'accord, problème technique plus une erreur humaine. On l'a vu dans les fuites de données qui ont eu lieu, qu'on voit dans la presse, hein, moi je m'informe dans la presse comme vous, mais dans les fuites de données qui ont eu lieu sur des laboratoires privés de l'ouest de la France, vers là je pense. Et en fait, on a l'impression, les professionnels de santé ont l'impression de ne pas arriver à garantir ce qu'ils se sont jurés de garantir, c'est-à-dire le secret des données. Et ça, c'est un vrai conflit de loyauté pour l'utilisateur que je suis. C'est-à-dire, comment est-ce que j'arrive à être sûr que la donnée que me donne mon patient, je lui garantis qu'elle ne sortira pas de ce pourquoi elle est prévue et qu'elle ne sera pas diffusée à droite à gauche. Moi, j'ai eu une discussion assez ubuesque avec mes collègues d'addictologie qui était vraiment à vouloir mettre même une hiérarchie du secret médical. C'est-à-dire, en gros, mon secret médical serait plus important que celui de la psychiatrie, qui serait plus important que celui de... Et en fait, cette discussion, elle a eu lieu là récemment avec les addictologues, mais on a eu la même avec les psychiatres, avec les gynécos, avec les centres qui s'occupent des IVG, qui nous expliquaient que c'était vachement plus important de... Enfin, plus stigmatisant de savoir qu'une patiente avait fait une IVG plutôt de savoir qu'elle a un cancer. Moi, je ne sais pas quelle est la bonne réponse à cette question. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais ça amène un certain nombre de professionnels à se poser la question du cloisonnement au sein de ces outils. C'est complètement contre-intuitif et ça va complètement contre la volonté de ces outils. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on nous demande d'être indépendants aussi dans le serment d'Hippocrate. Et que ces systèmes centralisés limitent foncièrement notre indépendance. Puisqu'on est obligé de rentrer pour être remboursé, etc., etc. On voit bien où est-ce que ça va amener. Et que donc, ça va un peu en contradiction avec des choses qui sont profondément inscrites dans l'ADN des professionnels. Alors, côté patient, moi, j'avais du mal à trouver des données. J'ai pris cet observatoire qui a l'intérêt d'être un observatoire. C'était sur est-ce qu'on les gens ont confiance dans les usages. Donc ça, c'était les usages d'Internet. Donc, je vais classer la santé dans la e-administration ici. On est plutôt dans les usages d'Internet pour lesquels les Français ont confiance. 70% de confiance, c'est plutôt pas si mauvais, et puis c'est stable dans le temps. Puis, on regarde fonction des classes d'âge. Ce qui est important, c'est que 80% des soins vont sur très peu de la population, et puis c'est plutôt les plus âgés. Et les plus âgés sont ceux qui ont le moins confiance dans l'Internet. Ça pose la question de l'outil. Alors, est-ce que ça changera avec le vieillissement des générations? Est-ce que la génération d'aujourd'hui aura plus confiance à 80 ans dans l'Internet que la génération actuellement à 80 ans? Possiblement. Mais actuellement, ça s'adresse à cette population, ils sont pas très confiants. Et puis, on leur demande, est-ce qu'ils ont pratiqué la e-santé? En fait, quand on regarde, le DMP était détaillé, il est ici, hein, sur cette ligne-là. Et donc, on s'aperçoit que il y a 30% des patients qui avaient déjà fait, ce qui limite. Et ça, on s'adresse à une population qui sont des internautes. C'est-à-dire, vous excluez de ce dénominateur tous ceux qui n'ont même pas accès à Internet. Les 40% proposés au Québec, je ne sais pas quelle est la proportion en France, et je me garderai bien de donner des chiffres que je ne maîtrise pas. Et donc, on sait pour ça qu'il y a 30% qui l'avaient fait volontairement, ce qui explique le passage au mécanisme de l'opt-out, que 39% étaient à peu près, disaient « je suis prêt à l'accepter », mais qu'il y avait quand même 31% des patients qui étaient complètement réfractaires à cette idée. Je suis pourtant certain qu'on n'a pas 31% d'opt-out sur les... Et donc, ça relativise. Moi, j'avais du mal à mettre une... à chiffrer un peu ce ressenti qui est assez vrai de les patients, en fait, n'y vont plus. Et voilà. Après, moi, j'avais quelques notions que m'ont amené les échanges qu'on a fait pour pouvoir en discuter, mais notamment sur le coût, hein, le coût temporel et le coût sur la déshumanisation de la relation médecin-malade qu'amène l'éruption d'un objet technique dans une relation très duale. Ce qui fait que vous faites confiance à votre docteur, c'est l'ordre de l'indicible, c'est pas qu'il gère bien vos données, c'est qu'il vous met dans un espace de confiance, et je trouve que ça peut amener régulièrement à des difficultés, hein, au sein des consultations, même si je suis persuadé de l'utilité, en fait, de ces outils, parce qu'on a gagné beaucoup de temps et on est plus pertinent dans les soins techniques. Mais dans la relation, c'est plus difficile. Ça, on a gagné en efficacité sur les soins techniques au dépens sûrement de la relation humaine. J'ai sûrement trop parlé, donc je laisse la parole et je réponds.
Très grand merci pour vos interventions, vraiment très intéressantes. Là, bon, pareil, je vais d'abord vous tourner vers la salle pour savoir s'il y a des questions. Non, pas de questions sans sur le sujet. Oui, madame.
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait repenser la fonction de médecin en abandonnant une partie du service de le structure médical pour que l'action qu'elle soit à jour?
La question que vous posez, c'est la question de est-ce que le métier doit s'adapter à l'outil ou est-ce que l'outil doit s'adapter au métier? Et c'est une question de fond, c'est une question sociétale. C'est, je ne pense pas que ce soit au médecin d'y répondre, en fait. C'est plus une question de comment nous, société, décide de gérer la santé, quel est le rôle des acteurs de santé au sein de notre fonctionnement. Si on a mis en place quand même ces secrets médicaux, c'est qu'il devait y avoir une bonne raison. Il n'y a pas beaucoup des secrets professionnels. Il y a le secret de l'avocat, le secret médical. Et ça s'arrête à la même position. Secret défense. C'est l'intérêt de l'État. Et encore, il est discutable. Mais en fait, sociétalement, on n'a pas beaucoup de... La notion de secret est très ténue, pour de bonnes raisons, mais il n'y a pas beaucoup d'attaques sur la légitimité de ces secrets. C'est que ça rend quand même une fonction importante au corps social. Après, moi, je suis un acteur du système. Je pense que les médecins auraient beaucoup de mal à abandonner. Parce que c'est quand même très constitutif de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Et quand quelqu'un vous raconte des choses qui sont éminemment intimes, comment vous créez les conditions de cette intimité nécessaire aux soins? Parce que j'ai besoin de savoir des choses, de savoir la relation sexuelle du gars qui était d'avoir les putes, parce que pour moi, ça veut dire que bah, peut-être qu'il a une maladie sexuellement transmissible et qu'il faut que je la recherche et que c'est donc important pour mes soins. Comment cette condition de la confiance, elle se crée? Et le contexte dans lequel, soit ça prend beaucoup de temps, vous accordez la confiance à quelqu'un, ça prend souvent beaucoup de temps. Si on veut que ça soit dans un temps court, il faut que ça soit sociétalement complètement validé. Et la seule façon que je connaisse, c'est le secret médical. Je ne prétends pas avoir une vision exhaustive du sujet. Je ne sais pas quel est mon sujet pour faire ça aussi.
Ouais, du coup, juste citer, donc c'est quelqu'un qui s'appelle Bernard Wernick, qui est un PU un professeur universitaire de cancéro. Et il dit, il n'y a pas de soins sans confidence, de confidence sans confiance. Et donc, en effet, c'est pourquoi il y a le secret médical. C'est ce que tu viens de dire. Parce que si moi, c'est une source d'angoisse parfois, c'est si les hôpitaux, le système de soins, c'est c'est de l'institution, l'hôpital, dans laquelle les personnes ont le plus confiance. Si tu prends plusieurs institutions, l'État, la Cour des comptes, l'hôpital, c'est vraiment le lieu dans lequel on a le plus confiance. Et si on perd ça, qu'est-ce qui va se passer si tu es séropositif, VIH, et que du coup tu veux pas te faire soigner ou tu retardes même des délais de prise en charge parce que tu as peur que tes données soient balancées, que ton secret soit pour les prêts. Après, il y a plein d'implications de ce secret qui est... c'est une sorte de balance pour moi entre la dans le numérique, la transparence des algorithmes, ça, le code source des algos doit être transparent, doit être open source, les données doivent pouvoir circuler entre des acteurs de confiance, dans ce cadre-là. Mais par contre, on doit garantir quand même une confiance et un secret. Donc il y a vraiment la dualité de transparence sur certains trucs et secret sur d'autres.
Je vais juste rebondir, je laisse la parole, je ne sais pas si c'est sur la même thématique. Moi, il y a une question qui me pose vraiment beaucoup, le problème, c'est la question de la responsabilité. Puisque c'est le mot que je n'ai pas entendu, mais qui est vraiment complètement lié à tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que le médecin, ce n'est pas parce qu'il y a un dossier médical informatisé qu'il est dispensé d'un interrogatoire, vous l'avez dit, ce dossier médical informatisé, il sera toujours frappé d'incomplétude, puisque ça sera la base de données uniques, de données santé, ça c'est un mythe, ça ne sera jamais le cas. Moi, quand je vais chez un médecin, c'est pour être soigné, le mieux possible, pour qu'il m'écoute et qu'il ne soit pas sur son écran en train d'essayer de générer les données les plus précises, les plus fines et d'assurer l'interopérabilité, etc., etc. En tout cas, ce n'est pas ce que je vous demande. Ce n'est pas la raison pour laquelle je suis venue. Et je pense qu'une des problématiques, c'est par exemple, Monsieur Lebras, vous êtes convaincu tout de même de l'utilité des outils informatiques, ce n'est pas le cas de tous vos confrères qui n'ont pas accepté cet outil parce qu'ils n'ont pas créé, vous parliez du dossier pharmaceutique, ce sont les pharmaciens qui l'ont créé eux-mêmes et l'ont financé eux-mêmes. Les médecins, pas du tout, ils se sont vus imposer en fait cet outil d'une certaine façon et depuis 2015.
On peut répondre d'une manière, je vais arrêter, le changement de ce que sont mes étudiants à ce que j'étais quand j'étais étudiant. Mon rôle d'étudiant, quand j'étais étudiant, c'était, je travaillais avec 16 hectares, un petit hôpital qui fait 30 hectares. Donc le matin, il fallait chercher les résultats. Donc aller chercher les résultats papier, parce que rien n'était. Moi, je prenais mon vélo, je faisais le tour de l'hôpital, j'allais en radio, au laboratoire de Buchigny, machin, et je revenais à 10h avec tout le bordel sur mon dos, poser ça sur la table, et le job de l'étudiant, c'était de trier les examens, de ranger les dossiers. Tout ce job, il a disparu. Au profit de, ça va beaucoup plus vite, et les temps d'hospitalisation pour les patients sont complètement fondus. C'est-à-dire qu'avant, on disait, bah, le patient, il a été faire son scanner. T'as le résultat? Non, bah, on l'aura demain. Donc, hop, on prenait 24 heures dans la figure. Et donc, on a la mémoire courte quand même. Je veux dire, on a la mémoire courte sur le bénéfice réel de cette interconnexion. Moi, plus jamais, je ne décroche mon téléphone pour avoir un résultat d'examen. Ils sont directement remontés dans le système. Je gagne un temps faramineux, j'évite d'être en retard sur le traitement des pathologies de mes patients, etc. Mais ça ne se voit pas. Ça se voit pas parce qu'on a vraiment un oubli à mesure qui est constitutif de ce qu'on est. Hein. On oublie que une tâche était extrêmement fastidieuse quand on n'avait pas un outil adapté. Et on est en permanence dans cette injonction entre dès que ça s'est amélioré, on oublie. Puis trois ans après, on dit pourquoi ça marche pas, on trouve que ça va pas assez vite. Alors on oublie que trois ans avant, on était encore moins rapide. Et donc ce ressenti, il est à questionner parce qu'en fait, c'est pour ça que généralement, je parle de ressenti dans notre version du secret médical. Je suis pas sûr qu'il soit moins bien garanti. Il est moins bien maîtrisé, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il est moins bien garanti? Je suis pas sûr parce qu'en fait, les dossiers patients papier, j'avais aucune trace de quel est dessus. Là, quelqu'un peut y accéder, mais je sais qu'il y a accédé. Et on en voit régulièrement. C'est comme dans toute institution, il y a forcément des brebis galeuses. Donc, on voit passer des problèmes de au respect du secret médical. Maintenant, je peux au moins les tracer. Alors, est-ce que c'est plus problématique parce que justement, ça l'a mis en avant et que donc les gens prennent conscience de ce qui existait et qu'ils n'avaient pas conscience? Peut-être. Moi, c'est vraiment là où je rejoins peut-être une partie de ton intervention, c'est de dire que la difficulté qu'ont un acteur de terrain, c'est que moi, je suis responsable devant la loi de la garantie du secret médical, mais je n'ai pas forcément les moyens. Et que ça ne dépend pas forcément de moi. Et que bah, quand c'est un système centralisé de secret médical, je me repose aussi sur un acteur tiers qui va être une direction de service informatique, souvent obscure, parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on ne se croise pas. Ça va être un hébergeur de santé, ça va être... Comment est-ce qu'on met ça dans notre pratique professionnelle? Je pense qu'on l'a pas encore digéré. Parce que, en plus, c'est un paysage en pleine mutation. Ça va extrêmement vite. Quand on se met 10 ans en arrière, il y avait quasiment rien. Là, on arrive avec des systèmes quand même qui commencent à se structurer de façon, avec des échelons importants. Et donc, on n'a pas non plus intégré ça. C'est pas intégré dans la formation initiale. Ça commence à l'être. C'est des projets pour l'intégrer dans la formation initiale, mais les rudiments du maniement de nos outils ne sont pas intégrés dans la formation initiale. Parce que comme si on a un doctorat, on serait capable de tout faire. doute sur ce sujet, mais c'est quand même une croyance régulière. Hein. On est très intelligent, on serait capable de tout faire. Moi, je n'y crois pas vraiment. Et on a un péché d'orgueil aussi de se dire qu'il y a des choses qui nous échappent parce qu'on n'a pas le niveau pour le maîtriser.
Non, mais je voulais juste simplement dire que vous avez déjà une responsabilité en tant que médecin qui est énorme. Faire une ordonnance, c'est déjà une responsabilité énorme. Qu'en plus, vous avez des contraintes en fait, en réalité technologique, voire peut-être le souci de bien faire par rapport à vos outils pour une meilleure circulation d'informations, pour, comme je disais tout à l'heure, contribuer à ce chemin commun, etc. Et c'est au détriment aussi de votre propre responsabilité personnelle. C'était juste le terme de responsabilité juridique.
C'est
ce point. Monsieur Poussard.
Je m'excuse, ce sera plus un commentaire qu'une question, mais moi j'ai adoré vos deux présentations. Je me sens très connecté par rapport à ce que vous avez dit. Et moi, à l'exemple de Catherine qui a été marquée par le mot que vous n'avez pas parlé de responsabilité, moi j'ai été marqué par un mot qui est récurrent de votre propos, c'est le mot social. La question qui vous a été posée, c'est une question sociale. Vous avez parlé d'accessibilité sociale. Et je trouve ça parfaitement intéressant, moi dans une activité. En lisant le propos, on parle d'employment. Et puis on voit ça dans la question du blockchain. Moi, qui est la technologie qui est celle que je préfère le plus détester. Parce que derrière cette idée de blockchain, au-delà des conséquences environnementales qui sont catastrophiques, il y a une volonté d'autonomiser et d'enlever du rapport social par les instances publiques. Et moi, comme chercheur, en vous écoutant, je sens un rôle de militer pour l'importance de la réponse du pouvoir étatique. Et je le dis, moi, dans un territoire, culture administrative, où justement l'État est sans doute plus en recul de la situation de la situation française, mais qui à certains égards, j'ai évoqué, vous avez parlé des normes métiers, moi qui est une expression que je connais pas, mais moi je vois des liens, ce que j'ai évoqué sur la branche participative, de face à la situation où l'État est en retrait, il y a une possibilité d'inclure du social avec la mise en cause de représentants, d'une portion représentative des différents acteurs, vers ces participations normatives. Je finis sur un point qui est de type, moi je disais qu'on parlait beaucoup, enfin, par la force des choses, moi j'étais amené à travailler sur l'intelligence artificielle. Je trouve qu'à certains égards, on manque le focus. Je trouve que le simple dépôt d'informations de santé présente beaucoup plus de sujets de recherche. Peut-être que un projet qui est encore dans l'état actuel des choses, si je comprends pas mal, c'est du futur, même pas demain, mais après. En tout cas, merci beaucoup.
Sur la blockchain, je vous rassure, il y a de plus en plus de blockchain en santé. C'est vraiment c'est un boom. Il y a l'IA qui se fait vendre. Et du coup, blockchain aussi. Et donc, j'imagine. Et c'est vrai que la blockchain et du coup le Bitcoin, qui est une monnaie qui utilise la blockchain, c'est vraiment le summum du solutionnisme technologique. On pense vraiment que la techno, sans aucune forme de gouvernance, de quoi que ce soit, la monnaie va s'auto... s'autoréguler, c'est vraiment on est au fin fond du bout du solutionnisme technologique. Et ça fait peur et donc on est aussi en santé. Et sur tout ça, en fait, sur tous ces outils numériques, ce qui manque, oui, c'est ce que tu as fait dans ta présentation, c'est en fait, des études d'efficacité de ces outils. En quoi, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue scientifique, médical, en quoi mon espace santé va être mieux que peut-être quelque chose de plus local, tel système d'info versus d'autres. Par exemple, sur le Covid, la CNIL plusieurs fois a demandé des études d'efficacité de Stop Covid, de CIDEP, des fichiers qui ont été mis en place pendant le Covid. Malheureusement, ces études on a l'impression que ça sert, mais on n'a pas les mêmes retours pour mon espace santé, combien y a de personnes qui s'opposent. Enfin voilà, plein de toute une série de chiffres que l'on a malheureusement pas. Mon espace santé, par exemple, on a eu des chiffres qui ont fuité de présentation, mais il n'y a pas eu de débat public sur ça, alors qu'il y a eu une préfiguration de mon espace santé avec vraiment des débuts de quelque chose, et ça méritait sûrement retour collectif, peut-être amélioration. Et ce débat, en fait, on part d'un présupposé que les technos en santé vont améliorer les choses. Grandement, oui, donc maintenant l'externe, il n'a plus à se trimballer. Par contre, le médecin, c'est vrai que moi, les urgentistes, ils sont tous devant leur ordi. Quand je les passe les voir des patients, il y a une salle, il y a 10 urgentistes en train de me taper devant leur ordi. Donc c'est le travail, c'est modifié. Mais voilà, tout ça mérite peut-être une étude, quoi. Questionnement.
Stop Covid, on a des chiffres. C'est que c'est un fiasco. Je parle pas du système français, mais à chaque fois qu'il y a des logiciels dans le monde, c'était un fiasco complet. Sauf que, moi, je jette pas la pierre sur ça. On a fait ça dans une situation d'urgence. On savait pas. Faut apprendre à faire des erreurs. Moi, je pense que c'en était une, mais, je sais que nous, on a un copain de Léa Mécan, Benjo, qui est prof chez nous, a lancé un produit, une application. Je pense qu'elle n'aurait pas fonctionné, mais c'est le système n'a pas été capable de donner une réponse. Comme la CNIL a fait, je connais beaucoup la CNIL, mais la CNIL en un mois a rendu 3 avis sur la légalité de logiciel de Stop Covid. Donc, avec l'émission du Québec, j'étais très envieux de la capacité d'une instance publique à donner une réponse sur humainement le respect des règles sur le futur. Pour apprendre à faire des erreurs avec Pierre Chaud.
Dans le contexte du Covid, il n'y a pas de sujet. En effet, à mon sens, je suis tout à fait d'accord. C'était moral légitime de tester, de tenter. Le problème, c'est que ces outils perdurent, maintenant encore, alors on est encore dans le Covid, mais quand est-ce qu'on s'arrête? Encore actuellement, il y a 2-3 mois, la CNIL a demandé des études d'efficacité pour poursuivre ou pas les fichiers. Si d'être, par exemple, continue à être intégré au validateur, alors même que l'ordre des médecins avait demandé la condition de l'ordre des médecins pour accepter CIDEP, c'était que les données, que ça s'arrête un jour. CIDEP est inclus, donc au moins pour 10-15 ans, maintenant au validateur. Donc c'est en effet, le Covid méritait, je pense, de tester. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on est parti dans une techno, de s'en extraire et dire qu'il faut peut-être la stopper ou la moduler ou quoi, ça, c'est pas forcément fait. Enfin, en tout cas, à mon sens, c'est pas fait là.
J'ai ma collègue Lucie Cluzel qui a une question. Lucie, tu nous entends?
Oui, je vous entends, parfois un peu coupé, mais je vous entends. D'abord, je voudrais remercier vraiment les intervenants pour leurs brillantes interventions. Vraiment, c'était extrêmement intéressant. Je regrette beaucoup de ne pas être en présentiel, mais on enchaîne les réunions en ce moment. J'avais une question plutôt pour Adrien Parot, concernant la centralisation en fait des données. Parce que ça pose quand même, à mon sens, hein, vous me direz si je me trompe, mais un double problème de souveraineté, à la fois une question de souveraineté de l'État, on le voit avec le Health Data Hub qui est quand même hébergé, donc dont les données sont hébergées par Microsoft, du moins jusqu'à présent. Je ne sais pas où en est la transition, mais c'est quand même une entreprise américaine qui est soumise au Cloud Act. Et puis, ça soulève aussi une question de souveraineté des personnes sur leurs données personnelles. Hein, vous l'avez bien dit tous les deux. Pourquoi, en fait, pourquoi on a fait ce choix de la centralisation? Vous l'avez évoqué, mais je voulais qu'on revienne un peu dessus. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix de la centralisation qui a l'air de se reproduire au niveau européen? Est-ce que les solutions alternatives sont pas satisfaisantes, ou est-ce qu'il y a un fort lobbying? Qu'est-ce qui se passe exactement?
C'est quelque chose qui est ancré. C'est pas que pour la santé. Les énergéticiens, plusieurs personnes, tout le monde va chez les CAFAM, en gros, c'est malheureusement pas, enfin, comme c'est parce qu'on utilise Google Drive tous les jours que quand on est médecin, on l'utilise aussi potentiellement avec ses patients parfois pour et malheureusement on devrait pas l'utiliser, mais comme on l'utilise et comme on a l'habitude de le faire, ben en fait on l'utilise. Comme les ingénieurs ont l'habitude d'utiliser Amazon, ben ils le font chez EDF, à la SNCF et au Adzatab aussi. L'avantage de la centralisation, c'est qu'elle est techniquement plus simple. C'est aussi donc voilà un peu les deux par habitude parce que c'est plus simple. Je dirais que c'est les deux gros.
Je vais rajouter un élément technique quand même, c'est que on a bien vu avec CIDEP, ce qui nous a permis de faire CIDEP, c'est qu'il y a un acteur qui est ultra majoritaire. Mais dans les laboratoires, il y a un acteur non étatique qui est l'éditeur de publicité, qui a représenté 80% des laboratoires. Donc, interconnecter des logiciels qui sont identiques avec une plateforme, ça a été beaucoup plus facile que si on avait eu une myriade d'acteurs. Donc, ça nous a limité ce qu'on appelle les interfaces. En informatique, j'ai appris ça des informaticiens, c'est qu'ils détestent un truc qu'ils appellent les interfaces. C'est-à-dire comment un logiciel parle à un autre, comment il transmet des données, parce qu'une interface, elle doit surveiller, parce que c'est tombe en panne, parce que ça marche pas, parce que etc. Et donc, les modèles qui sont centralisés sont valorisés d'un point de vue technique, par les gens qui vont faire plus technique la solution, parce que pour eux, c'est des systèmes qui sont moins consommateurs d'énergie à maintenir. Alors que quand vous faites des systèmes décentralisés, ben, il faut que vous prévoyez la communication entre ces systèmes, et ça coûte cher en supervision et en transmission de l'information. C'est peut-être la bonne solution sur le plan final, mais c'est pas la solution qui va être proposée spontanément par les gens qui ont la maîtrise technique du sujet. Ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est qu'on est un pays qui est quand même très centralisé. La brique numérique va faire fi de ce qu'est l'organisation de l'État en général en France. Et que donc, comme l'ordre vient d'en haut, la personne qui donne l'ordre veut avoir la main pour vérifier que son ordre est transcrit dans les faits. Et je pense que c'est une partie de la réponse aussi. Après, il y a sûrement d'autres réponses plus pragmatiques, mais moi, j'ai été marqué par l'influence des éditeurs, des choix techniques. On ne s'en rend pas compte, hein, mais en France, les dossiers patients informatisés, il n'y a pas 50 éditeurs, en fait. Ils sont très, très peu nombreux. Ils ont des marchés qui sont énormes. D'ailleurs, ils grossissent en rachetant les concurrents. C'est peut-être très grossi. Et on s'aperçoit que c'est vrai dans des marchés qu'on appelle de niche, mais c'est vrai pour les laboratoires en ville, c'est vrai que donc ça, c'est un éditeur qui représente peut-être un petit marché. Pour les laboratoires hospitaliers, c'est un autre éditeur qui représente quasiment tout le marché aussi. Mais en fait, il y a peu de variations. Donc, on est aussi très à la, très limité parce que les éditeurs sont prêts à mettre en face de nous.
Sur le Hello Data, pour, donc, sur des volets, donc un entrepôt de données de santé très centralisé, national, donc le HDA, sur cet objet très, très précis. D'autres les dossiers informatiques des patients. Enfin, voilà. Vraiment l'objet entrepôt de données de santé Health Data Hub. De toute façon, l'interopérabilité va falloir la faire. Qu'on la fasse dans les hôpitaux localement, chacun, ou qu'on la fasse dans le Health Data Hub, on va être obligé de la faire pour que les algorithmes puissent discuter. Donc ça, c'est un préalable. Et le problème, c'est que si on la fait pas localement, les données vont être... En fait, c'est comme si on prend un paquet de données et on l'envoie au Health Data Hub et les données sont... En bazar. Donc, de toute façon, en fait, ça sert à rien de centraliser les données sur cet objet Health Data. Si on centralise, on va juste faire n'importe quoi. Il y a une expression en IA, c'est garbage in, garbage out. Donc, en gros, si on balance n'importe quoi, on va obtenir n'importe quoi. Donc, ce travail-là, on est obligé de le faire et autant le faire en local parce que la qualité des données sera meilleure.
Merci beaucoup. Merci.
Merci à tous. C'est la fin de notre séminaire, cette conférence. J'espère que vous avez apprécié autant que nous toutes ces interventions qui étaient vraiment d'une grande richesse et surtout d'une grande complémentarité. Je remercie beaucoup Marie qui a réussi à parfaitement cadrer en fait ces interventions, à bien expliquer ce qu'on voulait, à bien utiliser les mots-clés qu'on avait identifiés en amont et qui ont permis donc la réussite de cette conférence. Donc je remercie à nouveau les intervenants, mais on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure, et le public qui est venu en fait spécialement en présentiel. Donc vous pouvez réécouter en podcast sur le site de la chaire cette conférence. La charte continue en fait ses activités, vous le savez. Donc là, c'était la dernière conférence hybride avant la coupure estivale. Nous allons nous retrouver donc pour la rentrée, en associant également donc nos masters respectifs, parce que on tient beaucoup aussi à mettre en relation nos partenaires, les enseignants chercheurs de toutes disciplines, mais aussi les étudiants ensemble, hein, pour qu'il y ait en fait des échanges entre eux. Donc la prochaine conférence portera sur imaginaire et IA. C'est-à-dire que là, nous allons voir en fait qu'est-ce qu'une donnée, la visualiser, parce qu'il y a un certain mythe autour de la donnée, notamment peut-être que le patient en fait ne s'en préoccupe pas parce qu'il ne comprend même pas ce que c'est qu'une donnée, il n'arrive même pas à la toucher, à voir en fait, à comprendre ce que c'est. Donc on va travailler sur ces notions et Fabrizio qui est ici présent dans la salle, un doctorant qui est venu donc s'adosser aux travaux de la chaire, va, comme Marie vient de le faire, nous aider à monter cette prochaine conférence sous la direction d'Éric Peset. Voilà, elle aura lieu donc en octobre à une date qu'on n'a pas encore complètement déterminée. Merci encore à vous tous. Très bientôt.
Je crois que Lucas, la question en tête, je peux vous interviewer une minute chez vous. Alors, j'ai dit que c'était sous réserve de votre consentement. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Moi, ça me reste juste très, très vite.
Merci. J'espère que ça vous a intéressé.
Ben, j'espère.